7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
J-1 pour les Gilets jaunes. Le pays sera-t-il bloqué demain? On attend 1500 blocages un peu partout en France. Les informations d'Europe 1 dès le journal de 7h. La grogne populaire, le soutien d'un président de région, celui de la Normandie. Il sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15. Et puis, à 7h20, ne manquez pas notre grande enquête sur le diesel. Tiens, 63% du parc automobile français en consomme, mais quel est son véritable impact sur la population, qualité de l'air, effet sur notre santé? On vous dit tout dans Europe 1 va plus loin. 7h45, je reçois Patrick Timsit, ambassadeur du SAMU social, rencontre avec un comédien engagé dans 3 quarts d'heure. Et puis c'est l'événement culture de ce mois de novembre, on attendait son nouvel album depuis 28 ans, le retour de Michel Polnareff pour de vrai. On vous fait découvrir son premier titre dans quelques instants dans le journal d'Hélène Zélani. Vous émergez tranquillement, vous réveillez, tout va bien, tranquille, souriez, c'est vendredi et je vous le répète, il n'y a rien de grave, tout va bien, on gère. Bon réveil à tous.
Et merci d'être à l'écoute d'Europe 1 ce vendredi 16 novembre. Il est 7h, très bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Et le journal avec vous, Hélène Zélani, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Tariq Ramadan remis en liberté, mais sous condition. Vous entendrez Christelle, l'une des femmes qui l'accuse de viol. Elle craint des représailles. Certains gilets jaunes devancent l'appel. Dès hier, ils étaient une centaine sur la promenade des Anglais à Nice, avant la grande mobilisation de demain. Et puis vous le disiez Nikos, c'est le grand retour de Michel Polnareff. Son nouvel album sort à la fin du mois. Il s'appelle Enfin, et vous allez donc découvrir le premier titre.
Europe 1.
Cela faisait presque 10 mois que Tariq Ramadan était en détention provisoire. Il va donc retrouver la liberté, mais sous contrôle judiciaire. L'islamologue suisse devra d'abord verser 300 000 euros de caution et remettre son passeport. Il n'aura pas le droit d'entrer en contact avec les plaignantes. Christelle est justement l'une des femmes qui l'accuse de viol. Elle craint les réactions des partisans de Tariq Ramadan. Témoignage Europe 1.
Ce n'est absolument pas sa libération qui me fait peur, dans le sens où Monsieur Ramadan ne fait jamais les choses lui-même. On va dire, lorsqu'il s'agit de menaces et de harcèlement, et il envoie toujours des gens le faire pour lui. Ce sont ces gens dévoués, corps et âme pour lui, aveuglés, qui sont dangereux. Et le fait de laisser ressortir M. Ramadan, dans leur tête, veut dire nous avons impunité totale. Donc c'est ça qui est problématique. Je rappelle que lorsque M. Ramadan a été mis en détention provisoire, ces personnes ont commis déjà des actes. Une des plaignantes a été agressée plusieurs fois. Moi, j'ai été victime de crachats, de coups d'épaule, d'insultes. On m'a suivi. Et ça, c'était quand il était enfermé et présumé, dans leur tête, coupable. Maintenant que dans leur tête, il est présumé innocent, imaginez ce qui va se passer pour nous. Là, maintenant, je pense que ça va être mon intégrité physique auquel ils vont essayer d'atteindre. J'estime que c'est de l'inconscience totale.
Voilà, témoignage de Christelle, l'une des victimes présumées de Tariq Ramadan, interrogée par Salomé Legrand pour Europe 1. Georges Tron acquitté pour les viols de deux anciennes employées de la mairie de Draveil, acquittement aussi pour son ex-adjointe Brigitte Gruel. Le parquet a 10 jours pour faire appel. Et puis verdict des assises de Corrèze en fin de journée dans l'affaire de l'enfant du coffre, la petite Serena qui a vécu pendant 2 ans dans le coffre de la voiture de sa mère. Elle est aujourd'hui totalement incapable d'entrer en contact avec le monde extérieur. La mère risque 20 ans de prison. Europe 1, il est 7h02.
C'est la veillée d'armes pour les gilets jaunes qui devrait mener environ 1500 actions dans toute la France.
Oui, seulement un peu plus d'une centaine déclarées. Perturbations ou blocages dans les accès aux villes, aux grands axes routiers ou encore aux aéroports et aux dépôts de carburant ainsi que sur le périphérique parisien. À Nice, certains ont devancé l'appel. Hier, ils étaient une centaine à former une chaîne humaine devant le célèbre hôtel Negresco. Occasion de constater que le mouvement rassemble des profils très contrastés. Frédéric Michel.
Parmi les gilets jaunes, de nombreux retraités, mais aussi des actifs, salariés, fonctionnaires, indépendants. En quelque sorte, monsieur et madame tout le monde. Cédric est célibataire, il a 25 ans.
Ça fait un an que je travaille en CDI. Là, on est le 15 du mois et sur les comptes, il n'y a plus rien déjà. Quoi. On ne peut plus vivre, on n'y arrive plus.
Et pour Lisa, actuellement au chômage, c'est la diversité du mouvement qui fait toute la différence.
C'est une force, vraiment. Il y en a un qui donne une idée, l'autre qui renchérit. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice.
Pas de chasse aux gros salaires ou aux 4-4 pour ces retraités niçois.
Moi, j'ai un peu d'argent, je suis là pour aider les gens qui en ont pas. On voit bien que c'est le litre d'essence qui a fait déborder le reste. Il faut réformer la France, mais il faut du temps.
Que tout le monde soit dans la rue, c'est tout à fait normal. Il y a une chose qui me gonfle, c'est qu'on oppose les gens qui n'ont pas de pognon à ceux qui ont du pognon. Les gens qui ont du pognon, la plupart du temps, ils le méritent, point.
Clara est fonctionnaire.
Si je manifeste, c'est parce qu'on n'a aucun parti politique. C'est vraiment une représentation de toutes les classes sociales, de toutes les professions. Je discutais avec une dame justement qui me dit, moi je n'ai jamais manifesté, et moi non plus.
Et beaucoup de citoyens qui ont rejoint le mouvement disent n'avoir jamais milité dans une association et encore moins dans un parti politique.
Frédéric Michel à Nice pour Europe 1 et avant-goût de blocage également hier en Saône-et-Loire et dans la Nièvre où des opérations escargots ont entraîné des bouchons dans les secteurs de Chalon-sur-Saône et de Cône-sur-Loire. En Grande-Bretagne, Theresa May dans la tourmente. La première ministre défend bec et ongle son projet d'accord sur le Brexit conclu avec Bruxelles. Pourtant hier, elle a dû affronter la démission de 4 de ses ministres et la fronde des députés. Elle risque désormais un vote de défiance, Anaïs Cordoba.
Ce vote, il peut être organisé si 48 députés conservateurs en font la demande par écrit. Hier, une dizaine de Tories déjà avaient annoncé avoir rédigé leur lettre et selon des sources internes au parti, le nombre fatidique de 48 pourrait bientôt être atteint. Si le vote a lieu, Theresa May risque sa place de première ministre, mais pour l'instant, elle tient bon. Hier soir, elle a balayé toute rumeur de démission et ce matin, elle repart déjà à l'assaut. Elle répondra pendant une demi-heure aux questions des auditeurs sur une radio. Convaincre les électeurs lui permettrait de mettre la pression sur les députés qui sont pour l'instant majoritairement opposés au projet d'accord. S'ils le rejettent, il pourrait contraindre le gouvernement à retourner à Bruxelles. Les autres options seraient une sortie sans accord de l'Union européenne, extrêmement dommageable pour l'économie, la tenue de nouvelles élections générales, ou bien, ce n'est plus à exclure, l'organisation d'un second référendum. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et puis en Californie, le bilan de l'immense incendie de forêt risque de s'alourdir considérablement. On parle pour l'instant de 66 morts et selon le shérif, il y a également 641 personnes portées disparues. Donald Trump ira demain à la rencontre des sinistrés californiens.
Europe 1.
Dans un instant, qui pour remplacer Manuel Valls à Évry? Et on l'a attendu longtemps celui-là. Le nouvel album de Michel Polnareff qui s'intitule Enfin. A tout de suite.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
Et la suite du journal avec vous, Hélène Zélani. On vote dimanche à Évry pour désigner le successeur de Manuel Valls.
Oui, législatif partiel dans la première circonscription de l'Essonne, puisque l'ex-premier ministre s'est lancé à la conquête de la mairie de Barcelone. L'opposition parle de test national, notamment la France insoumise. Le Rassemblement national espère aussi tirer son épingle du jeu. Le problème, c'est que les électeurs ne se passionnent pas vraiment pour ce scrutin. Reportage d'Adrien Beck.
Des panneaux électoraux au coin de certaines rues, seuls témoins de la bataille qui se joue dans les urnes ici ce week-end. Majorité présidentielle, France insoumise, ce match annoncé n'intéresse pas vraiment Patrice.
J'ai appris qu'il y avait des élections il y a 3 semaines. Mais bon, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'engouement, je pense pas de toute façon qu'il y aura beaucoup de votants. Donc.
Élection qui passionne d'autant moins que Francis Choix, maire d'Évry, soutenu par La République En Marche, adoubé par Manuel Valls, est sur le papier assuré de remporter la mise selon Marion. Pas convaincu pour autant.
Mais ce choix, on ne voit pas exactement ce qu'il fait. Hein. On ne le voit pas tellement. Hein.
Vous pensez que vous allez quand même voter pour lui?
Bah oui, ça je vais voter pour lui.
Les dés sont jetés donc, sauf si la France insoumise crée la surprise. Evelyne, électrice de Manuel Valls depuis 2002, votera pour la candidate de Jean-Luc Mélenchon.
Je pense qu'elle a ses chances. Je pense que des fois, il faut savoir oser changer un petit peu les choses.
Une voix qui peut faire la différence. L'année dernière, Manuel Valls n'avait sauvé son siège face à Farida Amrani qu'à 139 voix près.
Adrien Beck.
Enfin, c'est le nom de l'album très attendu de Polnareff, et pour cause,
ouais.
Hélène.
Oui, le 10e qui sort à la fin du mois, mais en guise de mise en bouche, le chanteur aux lunettes nous offre le tout premier single, Grandis pas. Diane Chenouda, vous revenez sur l'épopée, le mot n'est pas trop fort, de ce nouvel album.
Grandis pas, n'oublie pas ce que tu sais.
28 ans que ses fans attendent ce nouvel album comme le Messie. Enfin, c'est le titre justement de cet opus achevé à Los Angeles le 31 août dernier, après avoir été maintes fois espéré, annoncé, reporté. Polnareff aura mis 10 ans à accoucher de cet album. En 2014, il s'enferme 19 mois en studio à Bruxelles, mais il n'est pas satisfait, comme il le confiait il y a 2 ans sur Europe 1.
Je ne peux pas, moi, après autant de temps d'attente, je ne peux pas ne pas donner quelque chose de vraiment, vraiment extraordinaire. Et je trouve que le disque, eh ben, il sortira quand il sera parfait et quand il sera fini.
Laisse pas le temps.
Mais cette fois est la bonne. Enfin, c'est l'album le plus cher jamais produit en France. Il aura coûté près de 5 millions d'euros à Polnareff, qui a fait appel à une bonne cinquantaine de musiciens, changé 4 fois de directeur musical, 4 fois d'ingénieur son. Mais ce disque est pour lui l'un des meilleurs de sa carrière.
Et quand...
La voix est là, hein.
Ah bah.
Clairement.
Mélodie sublime. Hein.
Vous êtes fan, Hélène Zélani.
Ah, totalement. Grandis pas, c'est le single piano-voix de cet album de Michel Polnareff qui sort le 30 novembre.
Tellement te rassurer, ma...
maintenant c'est moi qui suis perdu.
C'était le journal d'Hélène Zélani sur Europe 1. Est-ce que l'actualité vous interpelle ce matin? On attend vos réactions sur le répondeur du 7-9 au 39-21.
Mais également sur les réseaux sociaux Nikos avec le hashtag Europe 1. Il est 7h10.
La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas.
L'heure de l'édito éco avec Nicolas Barré.
Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Si vous avez acheté du Bitcoin, vous savez, la monnaie virtuelle, en croyant faire de bonnes affaires, attention parce que c'est la bérésina. Toutes les monnaies virtuelles s'effondrent en fait.
Oui, on ne peut pas dire que les autorités n'auront pas mis en garde les particuliers. L'AMF, le gendarme des marchés financiers, publie d'ailleurs sur son site une liste noire des sites non recommandables qui promettent de gagner beaucoup d'argent en spéculant sur les monnaies virtuelles. Car beaucoup de particuliers se sont fait avoir. Et mal leur en a pris. Au début de l'année, le Bitcoin valait 17 000 $. La spéculation était à son comble, c'était la folie. Et puis depuis, il s'est effondré, il vaut moins de 6 000 $. Le Bitcoin, a dit hier le vice-président de la Banque Centrale Européenne, le français Benoît Cœuré, c'est une émanation maléfique de la crise financière de 2008, date à laquelle cette monnaie virtuelle a été créée.
Mais pourquoi sa valeur a-t-elle chuté à ce point, pour comprendre?
Eh bien d'abord, et c'est sans doute la raison de fond, parce que derrière, il n'y a rien. Le Bitcoin n'est basé sur aucune réalité économique. D'ailleurs, le vice-président de la BCE a aussi parlé de schéma de Ponzi, c'est-à-dire d'arnaque à la Madoff. Ensuite, parce que le marché des monnaies virtuelles est complètement opaque, il y a quelques gros acteurs qui manipulent les cours. Et puis enfin, c'est peut-être Christine Lagarde, la patronne du Fonds monétaire international, qui a porté le coup le plus dur en disant que les banques centrales devaient réglementer, voire créer leur propre monnaie numérique. Une menace potentiellement fatale pour le Bitcoin, d'où la chute de sa valeur. La leçon à retenir, en tout cas pour les particuliers, c'est qu'il vaut mieux se tenir à l'écart si on ne veut pas perdre sa chemise.
Nicolas Barré, l'édito éco, il n'y a pas de Bitcoin, mais ce sont des faits, c'est tous les jours à 7h10 sur Europe.
Et il est 7h12, on retrouve Carole Ferry sur le terrain, Nikos.
Et vous êtes où ce matin, Carole? Bonjour à vous.
Bonjour, je suis sous la halle des Hospices de Beaune. C'est là qu'aura lieu dimanche la fameuse vente aux enchères des grands vins de Bourgogne. Et est-ce que vous savez que le vin vendu est fabriqué à partir de vignes qui appartiennent à l'hôpital de Beaune?
Oui.
60 hectares au total. Et toutes les vignes proviennent de dons, de généreux donateurs. Il y a notamment l'histoire assez émouvante, vous allez l'entendre, de Jean-Marc Brocard. Il a offert en 2015 une parcelle de Chablis.
Je suis né d'une famille assez pauvre et je m'étais dit enfant que si je sortais un petit peu de ces difficultés matérielles, alors que j'étais heureux dans la ferme, je donnerais les moyens d'être un petit peu plus gâté, j'allais dire. Donc j'ai fait une belle carrière à Chablis. Lorsque je me suis bien développé, je me suis dit il y a un juste retour sur la Côte d'Or pour signifier que j'appartiens à cette Côte d'Or et surtout parce que mon père est mort dans cet hôpital de Beaune.
En fait, cette vente aux enchères est très connue à Beaune, hein, une fois par
bien
an.
Sûr.
Et l'argent récolté servira à financer l'hôpital.
Exactement, c'est une vente de charité, une tradition qui remonte au 15e siècle. Alors le bâtiment des hospices lui est devenu un musée, mais la vente finance toujours l'hôpital de la ville. Il vient de s'offrir comme ça une maternité flambant neuve. Il faut dire qu'il y a de très grands noms hein, dans ce domaine des hospices. Allez, je vous propose d'aller visiter la cave avec la régisseure Ludivine Griveaux. Alors attention, ce ne sont pas des bouteilles. Mais des fûts, me demandez pas d'en rapporter un, Nico, s'il vous plaît.
Avec modération.
Oui, il n'y aura... Et oui, il n'y aura que des tonneaux de 228 litres à la vente dimanche.
Alors devant nous, nous avons les fûts qui seront mis en vente dimanche prochain. Il ne faut pas marcher très longtemps pour arriver devant le Clos de la Roche, dans lequel on a mis un petit peu de vendange entière.
Ça veut dire quoi, mettre un peu de vendange entière?
Eh bien, ça veut dire qu'on met toute la grappe de raisin, y compris la partie ligneuse un peu verte que vous ne mangez pas quand vous mangez des raisins de table. Ça apporte beaucoup de complexité, de finesse. Nous allons sillonner autour de Pommard, sur lequel nous sommes propriétaires à hauteur de plus de 6 hectares. C'est une belle surface. On a quelques volets un petit peu plus loin. Ça parle aussi, ça.
Mais des tonneaux en vente, Carole, c'est quand même particulier. C'est réservé à une clientèle très spécifique, j'imagine. Ouais.
Oui, alors depuis 2005, tout le monde a le droit d'acheter. Mais vous avez en effet juste quelques passionnés qui viennent. Pas mal d'Asiatiques également. Et puis beaucoup, évidemment, de professionnels du vin. Et alors, pour vous donner une idée, eh bien, la vente a rapporté l'an dernier 11 millions d'euros.
Vente aux enchères importante. Ah, j'adore les cloches. À consommer avec modération et de quoi donner un beaucoup de pouce à l'hôpital de Beaune. Merci Carole pour cette semaine. Vous étiez en Champagne, Bagnolet, Trèbes et puis à Toulouse hier. Vous êtes tous ce matin. C'est notre rendez-vous quotidien dans la matinale d'Europe 1, 7h12.
Europe 1.
Et il est 7h15. Restez avec nous sur Europe 1. Suivre Nico Saliagas.
19 millions de véhicules roulent chaque jour au diesel. Un fléau écologique auquel veut mettre fin le gouvernement. Mais quel est l'impact réel du diesel sur la qualité de l'air et de la santé? Grosse enquête ce matin dans Europe 1. Va plus loin juste après ça.
14h18, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Tariq Ramadan qui obtient sa liberté, sa remise en liberté après 10 mois derrière les barreaux pour viol. Mais l'islamologue devra payer une caution de 300 000 euros et restera sous contrôle judiciaire. Environ 1500 actions des gilets jaunes prévues demain dans toute la France, mais seulement une centaine déclarées. Les préfectures rappellent que le délit d'entrave à la circulation peut valoir jusqu'à 2 ans de prison et 4500 euros d'amende. Emmanuel Macron n'ira pas au congrès des maires de France le 22 novembre. Il avait pourtant promis de venir chaque année rendre compte des engagements du gouvernement.
Europe 1. Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin à la pollution émise par nos voitures à la veille de la mobilisation des gilets jaunes.
Eh oui, les taxes carburant, la prime à la conversion, l'État fait tout pour qu'on roule propre. Mais quelle est la réalité de la pollution automobile? Et notamment des véhicules qui roulent au diesel, ils représentent environ 60% du parc automobile, soit 19 millions de véhicules. On en parle avec vous, Laure d'Autriche, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste environnement de la rédaction d'Europe 1. D'abord, Laure, un peu de pédagogie pour comprendre. Il y a 3 grands types de polluants avec le diesel.
Oui, il y a les gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique. 2, les particules fines, très nocives pour la santé. 3, les gaz NOx, aussi très mauvais, qui étaient notamment à l'origine du scandale du Dieselgate. Alors, le diesel émet moins de gaz à effet de serre que l'essence. Il émet aussi peu de particules fines, surtout depuis 2011, depuis que des filtres à particules ont été installés sur les diesels neufs. Alors aujourd'hui, 1/3 des diesels plus anciens roulent encore sans filtre, mais pour les autres, peu de problèmes de particules fines. Mais surtout, le diesel émet plus de gaz NOx que l'essence. C'est pour cela que vous entendez souvent dire que le diesel est plus polluant que l'essence. D'accord. À cause de ces gaz NOx que l'on appelle aussi oxyde d'azote, explique Laurent Gagnepin, ingénieur à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
C'est en effet une question technologique en fait. Le mode de combustion diesel fait qu'on est en excès d'air et donc intrinsèquement cette motorisation émet plus d'oxyde d'azote que les motorisations essence. Clairement, c'est un polluant sur lequel le diesel est en retard par rapport à l'essence.
Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que les progrès sur le diesel incitent les constructeurs de véhicules essence à faire de même. Ils sont eux aussi en train d'installer des filtres à particules sur les pots d'échappement.
Alors la pollution qu'on peut provoquer avec sa voiture, est-ce qu'elle dépend aussi, cher Laure, de notre façon de conduire?
Ah oui, complètement. Si vous roulez moins vite et que vous anticipez les freinages, vous consommerez moins de carburant et par conséquent, vous émettrez moins. Et puis, circuler en ville ou sur autoroute, ça n'a rien à voir non plus en termes de pollution. Ah oui. Il y a un chiffre intéressant, 40% des trajets que l'on fait en voiture font moins de 2 km. Or, ce sont justement ces 2 premiers kilomètres qui sont les plus polluants lorsque le moteur est encore froid.
Et au niveau de notre santé, parce qu'il est là le sujet, à partir de combien de temps d'exposition, le diesel a-t-il un impact sur nous?
Eh bien, plus vite que vous ne le pensez, votre santé peut en prendre un coup au bout d'une heure seulement. Imaginons, vous êtes à pied ou à vélo, derrière un embouteillage, derrière un pot d'échappement qui dégage beaucoup de ces fameux gaz NOx. Le corps réagit tout de suite, explique Thomas Bourdrel, radiologue et président de l'association Strasbourg Respire.
On voit des modifications inflammatoires, on voit déjà un impact sur les artères au bout d'une heure seulement d'exposition. L'impact sur le système respiratoire va également très très vite. Si vous êtes asthmatique, vous pouvez faire une crise d'asthme dans les minutes qui suivent une exposition prolongée à des gaz d'échappement.
Et puis, à plus long terme, bien sûr, il y a des risques, évidemment, des infections coronariennes chez les seniors, des leucémies chez les enfants notamment.
Est-ce qu'il y a des solutions, des exemples vertueux?
Alors
qui
marchent
ailleurs?
Au Japon, par exemple, prenez la ville de Tokyo, 9 millions d'habitants, tout pour être une grande capitale polluée, sauf que depuis 15 ans, le diesel est interdit en ville et le bilan est spectaculaire. Moins 22% de morts de maladies respiratoires, pour les infarctus et les AVC, moins 11%. On voit clairement la différence. Et puis, regardez l'Allemagne. Dans 6 mois, en avril prochain, le diesel va disparaître de plusieurs grandes villes, Berlin, Cologne, Bonn notamment. En France, rien avant 2024. C'est Paris qui s'est fixé cette date. Les villes de la petite couronne suivront. Et puis il y a aussi Grenoble qui veut bannir le diesel en 2030.
Laure d'Autriche, spécialiste des questions environnementales ici dans la rédaction d'Europe 1. Europe 1 va plus loin, c'est tous les matins à 7h20.
Et si vous souhaitez réagir, faites-le par téléphone au 3921 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h23.
À suivre l'innovation avec Anissa Mbida, on va parler photographie ce matin. Comment prendre des photos dans le noir avec votre téléphone portable? Il paraît que ça marche.
Avec un flash, non?
Non, sans flash. Vous allez voir, tout de suite.
Il est 7h26.
Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anissa Mbida, Nico Saliagas.
Ce week-end, vous allez peut-être être amené à faire des photos en famille, je ne sais pas, dans le parc, au sport, je ne sais pas. Alors, on peut désormais, c'est ce que va nous dire Anissa dans quelques secondes, faire des photos dans le noir, sans flash, juste avec un téléphone portable, même quand on n'est pas photographe professionnel, en fait.
Non.
Racontez-nous tout.
Il faut vraiment le voir pour le croire. On vous a mis des exemples sur le hashtag Europe 1. Donc, on a d'un côté, je vais vous imprimer des exemples, hein. On a d'un côté la photo qu'on prend d'habitude, la nuit, dans un endroit un peu sombre, donc évidemment, elle est toute noire. Mmh. Et de l'autre, on a la même photo, mais prise avec le fameux mode vision de nuit. Et vous voyez le résultat, c'est bluffant. On a parfois
l'impression qu'il y a flash.
Parfois, il y a même un côté irréaliste. On se demande où il a trouvé la lumière.
Alors, on peut faire ça avec un appareil photo. Il faut juste en manuel le très bon réglage et être en ouverture pour capter la sensibilité.
Oui, mais
fait.
Un appareil photo professionnel, ça coûte 5000 euros. Il faut un logiciel de retouche. C'est très compliqué. Aujourd'hui, ça se fait sur n'importe quel téléphone portable, un téléphone qui est plus classique parce que tout est fait par logiciel. Mmh. En fait, il prend une dizaine de photos à la suite, il les analyse, il retraite l'image et justement, il va retrouver des couleurs, retrouver des détails, éclaircir les zones sombres. Alors pour l'instant, l'exemple que je vous ai montré, là, le plus bluffant, il est disponible que sur les téléphones Google, les fameux Pixel.
Oui, c'est pas tous les téléphones.
Mais tous les fabricants sont en train de mettre l'équivalent parce que c'est uniquement un petit programme qu'il faut modifier. C'est ça la différence, il n'y a pas de nouveau capteur.
C'est un logiciel. Enfin, moi, je dis que ça ne vaut pas un appareil photo, même si c'est très bien. On l'utilise tous, le téléphone portable, mais le bon appareil photo.
Je sais que c'est difficile à croire pour les photographes, notamment les photographes professionnels, mais c'est un fait. Aujourd'hui, les téléphones portables ont une meilleure plage dynamique que les réflexes professionnels. La plage dynamique, c'est les contrastes, c'est la différence qu'il y a entre le point le plus sombre et le point le plus clair de l'image. Et c'est possible justement avec le fameux mode HDR qu'il y a aujourd'hui sur les photos. On combine plusieurs photos et on arrive à retrouver des détails qui n'existaient pas.
Il y a quelques temps, un photographe pouvait vous dire qu'une photo d'appareil de téléphone, en fait, n'est pas une photographie. Et c'est en train de changer manifestement.
Oui.
Même si je persiste et je cite
un bon appareil photo,
voire un hybride.
Non, un bon photographe, c'est bien meilleur qu'un très bon appareil photo.
C'est le regard, c'est pas l'appareil. Anissa Mbida, l'innovation qui photographie le futur, c'est tous les jours à 7h25. Merci.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Suivi conso, conseil personnalisé, aide aux travaux. Aujourd'hui, EDF développe des offres et des services innovants pour vous aider à mieux consommer. Plus d'infos sur EDF.fr.
Dans un instant, le journal de Céline Kalman.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abri piscine.
Mais avant la météo avec Laurent Cabrol.
Moi, je connais un photographe qui cartographie le ciel quotidiennement et même dans le brouillard, il peut vous prédire la météo du jour.
Ça, c'est pas facile dans le brouillard. Je sais pas comment vous faites, mais
c'est vous, je parle de vous.
Il fait froid en plus. 2 degrés à Épinal et Guéret en ce moment, 3 à Nancy, 4 à Clermont, 7 à Lille, 8 à Lyon, 9 à Paris, 10 à Rennes, 11 à Toulouse et 14 à Perpignan. Vous voyez que l'amplitude est importante, sont bien sûr les températures qui règnent à l'heure où nous parlons. En ce qui concerne la visibilité, elle n'excède pas 150 mètres vers Saint-Brieuc, Vichy, au Puy, à Bourges. Oui, ce sont vraiment des distances très réduites. Et puis quand même, dans le courant de la journée, le soleil va s'imposer, on peut le dire, sur les deux tiers de la France. Là où vraiment les brouillards vont persister, Bretagne, Normandie, Picardie, Flandre, Val-de-Loire et région parisienne, Paris et Lyon seront des villes, comme Lille, seront des villes où les brouillards seront très têtus et ça veut dire que le ciel restera le plus souvent très gris. Voilà, les températures maximales entre 10 et 20 degrés.
20 degrés, les températures maximales en France, merci. Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Nous sommes le vendredi 16 novembre et il est 7h30.
7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Céline Kalman pour le journal de 7h30. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Donald Trump est attendu demain en Californie où le bilan des incendies s'est encore alourdi ce matin. Plus de 60 morts. Le nombre de disparus est passé à 631. Écoutez les précisions du shérif.
C'est encore une fois mon triste devoir d'annoncer que nous avons localisé les restes humains de 7 nouvelles personnes. Et aussi que le nombre de disparus a augmenté à 631. Je voudrais vous expliquer pourquoi ça a autant augmenté. En plus de compter les gens qui nous appellent pour signaler les personnes dont ils sont sans nouvelles, maintenant, on rajoute tous ceux qui l'ont fait au pire moment des incendies.
Le shérif Corleone avec Xavier Yvon pour Europe 1.
Il est difficile de prévoir l'ampleur de la mobilisation des gilets jaunes et des blocages qu'ils vont entraîner demain. On ne peut pas savoir encore.
Ouais, 1500 actions sont en tout cas attendues sur tout le territoire. Un peu plus d'une centaine seulement auraient été déclarées. Très compliqué pour le ministère de l'Intérieur de prévoir où placer les unités de force mobiles en cas de débordement. C'est donc le défi majeur d'ici demain que doivent relever les services de renseignement, selon Christophe Rouget du syndicat de police SCSI-CFDT.
C'est très peu effectivement parce que nous avons des personnes qui ne sont pas habituées à ce type de démarche. Là, nous sommes sur un mouvement qui est très hétérogène, avec des gens très divers qui ne sont pas habitués à ce type de déclaration. Aussi, le travail de renseignement consiste à découvrir où vont se passer les actions et essayer de mettre en place un dispositif de sécurité qui permette à nos concitoyens de pouvoir circuler.
30 unités de force mobile ont été mises à disposition en renfort. Ça vous paraît utile et nécessaire ?
Bien sûr, il va falloir des unités d'intervention pour mettre fin au blocage ou aux dégradations qui pourraient être commises. La difficulté, c'est justement de mettre ces forces mobiles au bon endroit. Et c'est les services de renseignement qui travaillent actuellement pour que ces unités soient au plus près de ces manifestations et permettre d'intervenir et d'assurer la sécurité de nos concitoyens.
Christophe Rouget, joint pour Europe 1 par Alain Accot. Hier soir déjà, des automobilistes ont eu un avant-goût des blocages promis par les Gilets jaunes. Opération Escargot dans la Nièvre ou encore en Saône-et-Loire. Mobilisation également à Nice. Dans ce contexte, comment Emmanuel Macron va-t-il être accueilli aujourd'hui à Besançon? Le chef de l'État est attendu sur place pour inaugurer le musée des Beaux-Arts. Emmanuel Macron, qui avait promis de venir chaque année rendre des comptes devant les maires de France, le chef de l'État va passer son tour. Cette année, c'est son Premier ministre Édouard Philippe qui ira à sa place la semaine prochaine.
Europe 1, il est 7h33.
La cour d'appel de Paris a ordonné hier la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Tariq Ramadan.
L'islamologue est incarcéré depuis sa mise en examen pour viol. Depuis le 2 février, Tariq Ramadan va devoir verser une caution de 300 000 euros pour sortir de la prison de Fresnes. Au procès de Michel Fournier, le verdict est attendu ce soir devant la cour d'assises des Yvelines. Le tueur en série et son ex-épouse Monique Olivier sont jugés pour l'assassinat de Farida Amish en 1988. Les deux accusés ont été interrogés 2 heures chacun. Michel Fourniret a évoqué une clairière où il aurait pu enterrer un corps. Écoutez maître Didier Seban, avocat de la partie civile.
Nous avions l'espoir qu'il dise un lieu, il en a donné un et il a parlé d'une carrière de sable, il n'y en a pas 30 000 dans les Yvelines, donc nous allons très certainement demander dans d'autres affaires à l'instruction qu'on regarde cette carrière de sable, qu'on y aille, qu'on l'y emmène, parce que peut-être y a-t-il Farida, peut-être y a-t-il d'autres victimes que nous recherchons. Évidemment pour le reste, c'est toujours l'attitude qu'il a, c'est-à-dire demander du temps, demander la carte, demander qu'on lui demande gentiment. Il est dans le chantage permanent, je crois que finalement c'est un homme qui joue avec les autres, qui joue avec leur douleur, leur souffrance. C'est ce qui fait que, au fond, je pense que la seule réaction qu'on puisse avoir face à ce comportement, c'est la colère.
Mettre ce banc au micro de Chloé Triomphe.
La victoire devant le tribunal de Lille d'un vendeur de chicha contre les douanes.
Oui, tout cela à cause de la méconnaissance des douaniers. Ça faisait 3 ans que Julien Desmarais était poursuivi pour vente illégale de tabac. Tout le stock de sa société avait été saisi. En cause, les produits qu'il vendait pour être inhalés dans les narguilés. Les douanes affirmaient que c'était du tabac, mais c'était faux. Les analyses ont démontré qu'il s'agissait en fait de produits de substitution.
Un narguilé, c'est donc un appareil qui peut être utilisé à la fois avec du tabac et également pour utiliser des produits destinés à la vaporisation. C'est bien le cas des produits qui ont été mis en cause. Et c'est justement là, en fait, que la douane n'a pas cherché à comprendre. Elle a dit, c'est dans un narguilé, donc c'est du tabac, et donc on taxe, on confisque et on interdit. On n'a jamais pensé qu'on allait arriver à une situation où on allait devoir saisir les tribunaux, faire 3 ans de procédure. Une contre-valeur de 700 000 euros, c'est un préjudice énorme puisque d'une part, vous ne pouvez plus vendre vos produits. Ça vous empêche de vous développer. C'est un préjudice pour lequel nous allons poursuivre l'administration et poursuivre l'État pour obtenir réparation du préjudice causé, bien entendu.
Julien Desmarais avec Lionel Gougelot. Pays-Bas-France ce soir, football, dernier match de Ligue des Nations, rencontre à suivre en intégralité sur Europe 1, rendez-vous dès 20h.
Et la route du Rhum, un coup de théâtre cette nuit.
Oui, le Gallois Alex Thompson, qui était en tête des monocoques, s'est échoué au nord de la Guadeloupe à quelques milles de la ligne d'arrivée. Il a pu repartir en utilisant son moteur, ce qui pourrait lui valoir une pénalité. On ignore les raisons exactes pour l'instant de son accident. Écoutez le directeur de course, Jacques Caraes.
Je ne sais pas s'il était endormi ou s'il travaillait sur quelque chose à l'intérieur du bateau. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été très surpris d'être à la côte et il s'est retrouvé au ras de la falaise, puisque c'est une falaise très pentue. Avec, je pense qu'il a, touché carrément la falaise avec son étrave. Il a réussi à se dégager de la falaise en mettant son moteur. Donc on peut imaginer que dans une douzaine d'heures, Hugo Boss passera la ligne, à savoir simplement si l'instruction de la pénalité lui laisse la possibilité de finir sa course.
Jacques Caresse avec Corinne Boulou pour Europe 1.
C'était le journal de Céline Kallmann. N'hésitez pas à réagir sur le répondeur de la matinale.
Oui, pour ça, c'est très simple. Hein. Le 39-21 vous attend. Il est 7h36.
Jean-Michel Apathy. Mon cher Jean-Michel Apathy. D'abord, très heureux de vous retrouver, comme
mais
tous les
aussi,
matins. Et l'avocat pénaliste qu'on avait reçu il y a quelques jours, Éric Dupond-Moretti, alias Acquittator, a encore frappé.
Oui, il a obtenu l'acquittement de Georges Tromp, mais en écoutant sa plaidoirie, évidemment, un avocat est libre de ses moyens de défense, on a compris, en écoutant la plaidoirie d'Éric Dupond-Moretti, que le machisme avait de beaux jours devant lui.
S'il nous écoute, appelez-nous, monsieur maître
39-21, c'est
Dupond-Moretti.
39-21, oui.
Jean-Michel Apathy, à tout de suite sur Europe 1.
Il est 7h40, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Et Georges Tromp a donc été acquitté hier par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Il était accusé de viol par deux ex-employés, les plaignantes. Jean-Michel Apathy, vous avez été interpellé par certains arguments de son avocat, Éric Dupond-Moretti, alias Acquittator.
Alors, précision, on ne va pas refaire le procès de Georges Tromp, il est acquitté, et ça, évidemment, on n'en parle pas, mais certains arguments employés dans sa plaidoirie par Éric Dupond-Moretti méritent de retenir l'attention, parce que il dévoile la vision du monde qu'a Éric Dupond-Moretti, et c'est cette vision du monde qui nous intéresse ce matin. Lors de sa plaidoirie, Éric Dupond-Moretti s'adresse à l'association féministe qui est partie civile aux côtés des deux accusatrices de Georges Tromp, et il s'adresse à elle en ces termes. C'est bien, dit-il, Éric Dupond-Moretti, que la parole des femmes se libère, mais vous préparez un curieux mode de vie, aux générations futures. Alors, quand on dit c'est bien, mais c'est qu'en fait on n'aime pas du tout, et visiblement, Éric Dupond-Moretti n'aime pas vraiment que la parole des femmes se libère. Et alors il se tourne vers les jurés, puisque nous étions dans une cour d'assises, et là il précise sa pensée en posant une question que je vous restitue. Si votre fils touche le genou d'une copine dans sa voiture, est-ce que c'est une agression sexuelle? Eh bien, peut-être, maître, parce que vous avez l'air de penser que non, mais si la copine dans la voiture dit non une fois, et si votre fils arrête, il n'y a pas de problème. Mais si la copine dit non, non et non, et si votre fils continue, là, il y a un problème. Ce que demandent les femmes dont la parole se libère, c'est qu'on respecte leur consentement. Quand c'est non, c'est non. Et confronté à ça, Éric Dupond-Moretti dit, on prépare un curieux mode de vie aux générations futures. Il est quand même curieux, cet avocat. Et évoquant toujours le consentement à un autre endroit de sa plaidoirie, il a dit ceci. À 30 ans, une femme n'est pas une potiche incapable de dire non à un homme qui prend son pied, puisque Georges Tromp, c'était son truc, mais c'était un peu curieux, prenait le pied des femmes pour les caresser. Très bien. Une femme n'est jamais une potiche. Ça, nous sommes d'accord. Mais parfois, dans certaines circonstances, un effet de saisissement peut exister qui conduit une femme à être incapable de dire non à un homme qui lui fait subir une scène quelconque. Les femmes ne sont pas transformées en potiches, mais parfois en statues de sel. Dans un monde ancien, est-ce que Éric Dupond-Moretti regrette ce monde? Il y avait une loi non écrite. Le désir des hommes était plus fort que le consentement des femmes. Mais sachez-le, maître, ce monde est en train de disparaître, et c'est une bonne chose.
Jean-Michel Apathy, tous les jours à 7h40 sur Europe 1. C'est son point de vue, son coup de gueule aussi parfois. Merci, le message est passé.
Europe 1. Il est 7h43, Nico Saliagas.
Dans un instant, Patrick Timsit est mon invité. Il remonte sur scène pour soutenir le SAMU social. Et vous allez voir que derrière le saltimbanque, c'est un citoyen engagé qui s'exprimera dans quelques instants sur notre antenne sur Europe 1. Bon réveil à tous. Si vous partez travailler, on vous accompagne jusqu'à 9h.
7h, 9h, 2h d'info avec Nico Saliagas sur Europe 1. Sephora. C'est Black Friday avant l'heure chez Sephora et c'est complètement dingue. Nos parfums et coffrets parfums sont à moins 30%. Alors n'attendez plus. C'est le moment de vous enivrer de nos fragrances irrésistibles et d'attirer toutes les convoitises sur vous. Mais attention, vous n'avez que jusqu'au 26 novembre pour profiter des moins 30% et céder à vos coups de cœur parfumés. À très vite chez Sephora.
Voir conditions en magasin et sur Sephora.fr.
Sephora, au cœur de la beauté. Avec les jours Peugeot Pro, maîtrisez l'impossible.
Vos compétences sont uniques et votre métier spécifique. Les experts Peugeot connaissent parfaitement votre activité. C'est pour cela qu'ils construisent avec vous votre projet d'utilitaire sur mesure pour qu'il s'adapte précisément à vos besoins.
Pendant les jours Peugeot Pro jusqu'au 30 novembre, découvrez le nouveau Peugeot Partner et le véhicule utilitaire de l'année 2019 et profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme. Détails sur professionnel.peugeot.fr.
Air France.
France.
La France.
Is in the air. La France est dans l'air.
Il y a la mer.
Il y a le soleil.
Il bronze sur la plage, côté face, côté pile.
Elle, sous son ombrelle, bat des cils.
C'est un peu trop facile.
Il déserte.
Air France.
France.
La France.
Is in the air.
Découvrez Pointe-à-Pitre au départ de Paris à partir de 299€ jusqu'au 21 novembre 2018.
Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 13 mai au 9 juin 2019.
Il est 7h44 et les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Accusé de viol, Tariq Ramadan a obtenu hier sa mise en liberté sous condition. Il va devoir verser une caution de 300 000€, remettre son passeport suisse et il aura interdiction de quitter le territoire, d'entrer en contact avec les plaignantes et certains témoins. Emmanuel Macron n'ira pas au congrès des maires de France qui se tient la semaine prochaine à Paris. Le chef de l'État a choisi de recevoir mercredi à l'Élysée le bureau de l'Association des maires de France et plusieurs centaines d'élus. Et puis un tableau du peintre britannique David Hockney pulvérise tous les records pour un artiste vivant. Vendu 90 millions de dollars, plus de 90 millions de dollars, lors d'enchères chez Christie's à New York. Enfin, la tendance météo, toujours beaucoup de brouillard ce matin, surtout au nord de la Loire. Les éclaircies vont s'imposer sur la moitié sud et l'est dans la journée. Les températures en baisse de 7 à 20 degrés.
La météo complète, ce sera avec Laurent Cabrol juste avant 8h.
Europe 1.
Nico Saliagas, vous recevez ce matin le comédien Patrick Timsit.
Bonjour Patrick Timsit.
Bonjour.
Le 20 janvier prochain à l'Opéra Comique de Paris, vous allez remonter sur scène avec le livre de ma mère d'Albert Cohen, que vous incarnez de façon magistrale, il faut bien le dire. Mais cette fois, les bénéfices seront versés au profit du SAMU social. Pourquoi cet engagement ?
Alors du SAMU social international et du SAMU, social et du SAMU médical, mais de Paris. Et ben l'engagement en fait, ça m'est venu tout naturellement parce que on se fréquente beaucoup avec Xavier Emmanueli, c'est comme un mentor pour moi, voilà. Et comme j'ai beaucoup maraudé avec lui, tout ça, c'était en sous-marin comme on dit, parce que j'avais pas envie que ça se sache, mais c'était évident le parcours d'Albert Cohen, cet immigré finalement qui arrive de Grèce, de Corfou, moi qui suis arrivé d'Algérie. Il s'est arrêté à Marseille, puis après à Genève, moi, Marseille parle. Et Paris. Voilà. C'est un sujet d'actualité. Et puis, peut-être une façon de remercier ce qui s'est passé avec ce spectacle. Alors, est-ce que c'est de la rédemption, une culpabilité, de tant de bonheur ou de trop de bonheur? Ça va bien avec l'ambiance et l'esprit du livre.
Donnez-nous une image de ce que signifie marauder. Quand on va sur le terrain, quand on passe des moments, justement, avec la réalité de ceux qui n'ont pas de toit, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez nous donner quelques exemples?
C'est formidable. D'abord, oui, moi j'ai des amis qui me disent, je marauderais bien. Déjà, arrête ta voiture quand tu vois quelqu'un qui est en souffrance ou allongé tout seul et qui fait froid. Marauder, c'est d'abord aller au centre du SAMU social, après rentrer dans cette camionnette avec une infirmière, un psychologue, un chauffeur et proposer des services aux gens qui sont en détresse. Alors, c'est fou parce que Xavier Emmanueli me dit, alors voilà tout ce qu'on apprend. Sans domicile fixe, c'est sans domicile, mais c'est pas sans territoire. Ils ont leurs habitudes, ces gens qui veulent être pris en charge. C'est qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose d'abord, il y a tout ce langage avant de proposer comment aborder une
codes,
personne.
En fait.
Ah, c'est carrément le langage indien, c'est-à-dire le langage des signes aussi, où sont vos mains, de montrer qu'il n'y a rien, la distance, trop près, trop loin, et puis leur parler, pas leur
rassurer.
Parler, rassurer, et surtout ne rien demander, ne pas les mettre dans une situation délicate qui les diminue encore plus parce que c'est de l'exclusion en fait. La personne se sent inutile, il y a des degrés de détresse. Moi j'ai vu des gens qui étaient tombés la veille dans la rue, arrivés encore en attaché caisse, en impair, et costard, cravate.
Ça peut arriver à tout le monde.
Exactement.
D'une façon ou d'une autre en fait.
Tout à fait. Vous apprenez aussi le code des odeurs même. D'un coup il dit, il pue, il sent, il pue. Mais oui, c'est sa défense aujourd'hui. pour être moins agressé, moins importuné, pour peut-être avoir une chambre seule, comme avec
sauvage,
un chien.
En fait.
On se protège, on se sent complètement repoussé, donc on accepte ça. Voilà, je te pue à la figure, dit Jean, Xavier Emmanueli.
Le grand froid arrive ce week-end. Hier, un jeune SDF de 23 ans est mort de froid, ouais. Rennes. On meurt encore de froid aujourd'hui en France.
Oui.
Ça vous indigne, ça?
Mais ça m'indigne déjà. L'exclusion, le mépris m'indigne, l'indifférence des gens. Et plus j'entendais même Gilbert Montagnier, ça m'a marqué. Il disait, quand il pleut, on est encore plus embêtés, les non-voyants, parce que les gens s'arrêtent encore moins. Vous voyez, ce petit détail, c'est ce détail qui m'a accroché. Oui, bien sûr qu'on est indigné. Et surtout, j'aime bien cette histoire du colibri. On peut tous faire quelque chose. Ce qui me révolte le plus, c'est que dire bon bah attends, mais c'est tellement de problèmes, c'est tellement de gens qui sont concernés qu'à un moment on a l'impression qu'on peut rien faire. Évidemment,
on est spectateur de nos propres exclus.
Exactement. Et puis on s'excuse nous-mêmes de ne rien faire finalement en disant j'y peux rien, ça me touche, mais je peux rien faire. Alors il suffirait d'un geste. Bah déjà s'arrêter, appeler le 115, regarder l'état de la personne, apprendre nous-mêmes à avoir de la compassion. C'est pas un mot à la mode. C'est vraiment on vit mieux, on vit tous ensemble. C'est pas vrai, il n'y a pas d'agressivité, la personne ne va pas vous sauter dessus, ça dépend comment vous vous comportez vous-même. Et je pense que les spécialistes, ce sont le 115. Mais le 115, il faut aussi les aider, parce que ça manque de personnes. Je crois qu'il y a plus de 1300, je vais dire des bêtises, mais des milliers d'appels en tout cas par jour.
Et parfois ça ne décroche pas parce qu'ils sont très occupés.
Et ils ne peuvent pas parce qu'ils sont eux-mêmes à l'écoute d'autres personnes. Exactement.
Alors, vous êtes actuellement en tournée, on l'a dit, avec ce livre, hein. Cette pièce qui part d'un livre, le postulat de départ, c'est la mère, le livre de ma mère d'Albert Cohen. Vous avez joué partout, vous êtes sur scène, fin octobre à Tel Aviv et à Jérusalem. Ça a une résonance particulière pour vous, ce texte d'Albert Cohen, qui ne parle pas seulement du deuil, mais aussi du déracinement. Du migrant aujourd'hui, on dirait, de celui qui quitte sa terre pour aller vers l'inconnu.
Complètement. C'est-à-dire que c'est aussi à travers ce livre non seulement l'amour inconditionnel de cette mère que qu'a une mère pour un fils et le rapport qu'il a lui avec sa mère, c'est-à-dire les regrets aussi, mais les souvenirs aussi. Il disait on était des rien du tout sociaux, des isolés, sans nul contact avec l'extérieur. On allait au théâtre pour avoir un semblant de cette vie sociale qui nous était refusée. Vous voyez, c'est quand même, et pourtant c'est pas le plus malheureux. On peut pas dire que moi-même je vais me plaindre. Au contraire, on est des exemples même d'intégration.
Parce que vous êtes arrivé d'Algérie à 2 ans, une bombe avait explosé pas loin de la maison et votre père, vos parents, maman décident de quitter le pays sur le champ.
En une heure.
Voilà, vous laissez tout et vous recommencez à zéro.
Exactement.
Vous arrivez où à Paris?
On arrive d'abord à Marseille.
À Marseille.
Et c'est ma mère qui a gagné la bataille parce qu'elle avait de la famille à Paris. On arrive place de la République. Moi, je suis un titi parisien. Je suis parti, j'avais 2 ans. Quand on dit l'intégration réussie, elle est réussie puisque il y en avait pas. C'était évident. Il y avait une évidence que c'était ici et qu'il fallait, dans cette terre d'accueil, absolument se sentir bien.
On pourrait en parler très longtemps avec vous, mais faites-moi plaisir. Restez dans la matinée. Prenez un petit café, installez-vous. Je ne sais pas si l'actualité vous interpelle, les gilets jaunes, la politique. Vous savez quoi ? On s'installe tranquillement. Je rappelle juste que vous serez sur scène le 20 janvier prochain à l'Opéra Comique, où vous allez jouer ce texte magnifique d'Albert Camus, le livre de ma mère,
d'Albert
pour une
Cohen.
Bonne cause. J'ai dit quoi ? Albert
Camus. Mais
on n'est pas loin.
L'étranger,
on n'est pas loin.
Absolument, sur l'exclusion.
On n'est pas loin.
On l'a fait souvent et moi-même.
Je vous ai vu sur scène et vous l'incarnez, le texte d'Albert Cohen, et c'est pour une bonne cause, pour le SAMU social international et le SAMU.
Et à l'Opéra Comique et le SAMU médical de Paris.
Voilà. On en parle dans quelques instants avec vous.
Merci.
Merci Patrick Timsit.
Si vous souhaitez réagir, faites-le par téléphone au 3921 ou envoyez-nous vos messages avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h52.
À suivre le Zoom Eco, l'industrie française est la plus attractive d'Europe. Explication avec Axel de Tarlé. Et juste après le journal de 8h, on va parler du Brexit avec Vincent Herouette. À tout de suite sur Europe 1.
Il est 7h56. Nico Saliagas, c'est l'heure du Zoom Eco avec Axel de Tarlé.
Axel de Tarlé, la France serait championne d'Europe pour son industrie. C'est très contre-productif parce qu'on n'arrête pas de se lamenter du déclin de l'industrie française.
Oui, alors sauf que là, on parle de faits, hein, de chiffres. Hein. C'est le cabinet Ernst & Young qui a décidé tout simplement de compter le nombre de nouvelles installations industrielles décidées l'an dernier en France par des entreprises étrangères. Eh bien, en France, on a compté, il y en a eu 323, donc de ces nouvelles industries, installations industrielles. Et c'est un record en Europe. Si vous faites le même décompte en Grande-Bretagne, il y en a que 216, c'est numéro 2 la Grande-Bretagne. Et l'Allemagne est loin derrière, avec 163 nouvelles installations, donc deux fois moins qu'en France.
Mais comment expliquez-vous que les industriels étrangers préfèrent investir en France? Parce que généralement, on dit que c'est mieux ailleurs pour des raisons de taxation aussi, souvent.
Eh bien, tout simplement, ce cabinet a eu l'idée de poser la question aux chefs d'entreprise étrangers. Pourquoi avez-vous décidé de mettre votre industrie en France? Et tous ont répondu en cœur pour l'innovation. Bah oui, la France est une terre d'ingénieurs. Et puis alors, surtout, il y a aussi en France, et ce depuis des années, une grosse ristourne fiscale pour les industriels qui font de la recherche sur notre territoire. Donc vous voyez, ça fait deux bonnes raisons d'investir en France. Alors, néanmoins, on le sait, à l'inverse, il y a deux points noirs chez nous. Un, la complexité administrative. Et puis deux, le coût du travail. Eh bien, ces deux difficultés bien connues sont moins durement ressentis. Alors c'est probablement là le résultat de toutes les politiques pro-entreprise menées ces dernières années, avec par exemple les baisses du coût du travail, les baisses de charges, si bien que d'ailleurs le coût du travail progresse maintenant deux fois moins vite en France qu'en Allemagne. Autant de signaux donc, vous voyez, qui doivent nous inciter à l'optimisme. En tous les cas, ces chefs d'entreprise étrangers le sont, eux, optimistes pour nous, puisqu'ils disent à 77% ils disent avoir confiance en l'avenir de l'industrie française.
Et j'imagine qu'avec le Brexit, Axel de Tarlé, on va avoir pas mal de chefs d'entreprise
qui vont revenir. Ouais, qui vont revenir avec une Allemagne à plein régime où il n'y a pas de chômage, enfin, il n'y a plus de main-d'œuvre, ça fait encore de nouvelles raisons de venir chez nous.
Vive la France, voilà. Axel de Tarlé.
On est bien en France.
Ben voilà.
C'est vrai.
Il est 7h58, l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Patrick Timsit est resté avec nous dans le studio et nous accueillons Philippe Ballas. Jean-Philippe Ballas, tous les jours, il nous raconte une petite histoire, juste avant le journal de 8h. Différente, souvent positive, et aujourd'hui vous teniez à rendre hommage à un confrère de la BBC, Jean-Philippe.
Oui, lui dire merci, merci pour ce moment de télévision, moment de vérité, n'ayons pas peur des mots. Je vous parle de Chris Mason, jeune correspondant politique de la vénérable BBC. Chaque jour il livre ses analyses, fouillées, talentueuses, mais l'autre matin Chris Mason a, pardonnez-moi l'expression, fondu un câble en direct et en pleine tempête du Brexit. Totalement au bout du roule, le commentateur, paumé, marre de faire semblant. Mais il le dit avec un flegme et un humour forcément britannique.
Vous savez, en principe, les gens comme moi sont payés pour avoir des infos, de quoi nous projeter, savoir où nous allons avec ce Brexit. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, en l'état actuel des choses, je n'ai absolument pas la moindre idée de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. J'en sais rien. D'ailleurs, je pense que vous pouvez demander son avis à Monsieur Patate, parce que franchement, je soupçonne son analyse d'être aussi pertinente que la mienne.
Voilà, en vrai, il ne dit pas Monsieur Patate, hein. Il dit Mr. Blueby, c'est un personnage pour les enfants anglais, on ne le connaît pas, mais il est plus gratiné encore que Monsieur Patate. Alors, oui. Inutile de préciser que cette intervention a été abondamment commentée outre-Manche. On a beaucoup ri. Ça traduit aussi l'agacement profond de tout un peuple avec ce Brexit qui n'en finit plus. Alors, on souhaite plein de courage à Chris Mason. Tenez bon, Chris, parce que vous savez quoi? Après le brouillard et la pluie, vient toujours le soleil. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right.
La petite histoire qui en dit long sur l'actualité avec Jean-Philippe Ballas, c'est tous les jours, juste avant 8h. Bon réveil à tous.
À suivre le journal de David Doucan.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abris de piscine.
Mais avant la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Mon cher Laurent Cabrol.
Et avec une patate, parce que nous en avons une aussi, ça s'appelle l'anticyclone, les météorologues l'appellent.
Du soleil.
La surnomme la patate. La patate, ça veut dire du brouillard et après du soleil. Ce sera le cas aujourd'hui encore, puisque nous avons des brouillards très têtus, certes, sur la Bretagne, la Normandie, la Picardie, l'Île-de-France, la Vallée de la Loire et les Flandres, mais ailleurs, le soleil va percer. Et la tendance, qui était déjà croquée en début de semaine, c'est confirmé tout au long de la semaine. Les brouillards et le temps sec sont là. La douceur était là, est encore là un peu. Mais nous allons changer de type de temps. Et la semaine prochaine, ce sera du froid, même pas mal de froid. Et peut-être de la neige et de la pluie.
Merci Laurent Cabrol. A tout à l'heure, on est ensemble jusqu'à 9h dans la matinale d'Europe 1.
Excellente journée à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 8h, bienvenue. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal est présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Et Patrick Timsit est en studio. Trois titres à la une.
La grande journée des Gilets jaunes, c'est demain. 1500 opérations de blocage, mais tout le monde n'est pas solidaire. Les commerçants s'inquiètent. manque à gagner, risque de casse, reportage dès le début de ce journal. Sommes-nous face à un flagrant délit de promesses non tenues? L'Élysée a fait savoir hier qu'Emmanuel Macron ne se rendrait pas cette année au Congrès des maires de France, contrairement à l'engagement qu'il avait pris il y a un an. Theresa May est-elle en train de vivre ses dernières heures en tant que première ministre du Royaume-Uni? Son accord sur le Brexit la plonge dans la crise. Des députés conservateurs veulent déclencher un vote de défiance à son encontre.
Europe 1.
On parle de 1500 opérations de blocage dans tout le pays, pour la plupart non déclarées en préfecture. Les autorités craignent des débordements. Cette fois, nous y sommes. Demain, samedi 17 novembre, c'est la grande journée des Gilets jaunes. Selon les sondages, une majorité de Français soutient le mouvement, mais certains, au contraire, s'inquiètent. Les commerçants craignent un impact négatif sur les ventes en ce samedi et redoutent l'intervention de casseurs. Reportage à Langueux, dans les Côtes d'Armor, signé François Coulon.
C'est l'une des plus grandes zones commerciales de Bretagne. Langueux, aux portes de Saint-Brieuc, devrait être demain en état de siège. Pascal gère une boutique de prêt-à-porter.
C'est à peu près 30 à 40% de la semaine. Je suis dépitée. Une partie des salariés vont rester à la maison. On va être bloqué alors qu'on n'y est pour rien. Et que concrètement, l'État, ça ne va pas lui changer la vie.
Vous craignez des débordements ?
On entend des choses qu'on n'a jamais entendues jusqu'à présent. Des gens vont venir pour casser du magasin.
Les 5 salariés de Benoît Beauchat ne savent pas s'ils pourront prendre leur poste au magasin à Picache.
Ce mouvement nous fait peur, clairement. Le blocage de la zone sur une durée de 4 jours, à l'approche de Noël, on va être sur une perte de chiffre d'affaires d'autour de 15 000 euros. Ça va nous foutre dans le jus, nous. Il aurait fallu bloquer plutôt les dépôts de carburant.
Un samedi noir en forme de grand bazar, c'est la hantise de Catherine et René à la tête d'un commerce de meubles.
Ça peut être 50, 60 000 euros de moins en un samedi. Ça m'angoisse, moi, en tant que chef d'entreprise. Les achats, ils vont pas se faire dans les magasins, ils vont se faire sur Internet. Hein.
Je suis très en colère, parce qu'ils nous respectent pas. Et puis ça peut aussi durer jusqu'à fin décembre.
Sur Facebook, 1500 personnes ont annoncé leur participation au blocus de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, François Coulon, Europe.
Et notez que parmi les différentes actions, une opération escargot est prévue demain sur le périphérique parisien. Le cortège qui roulera au pas prendra ensuite la direction de l'Elysée.
Vous serez où, Patrick Timsit? Vous avez un gilet jaune pour vous glisser dans le cortège au cas où?
Absolument, je serai parmi eux pour pouvoir accéder au théâtre. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, je vais me retrouver métro, RER, mais il faut que je ruse.
Vous jouez où? Oui,
j'ai pas vu arriver le mouvement du tout. Non, alors là, franchement, je crois que c'est général. C'est parce que l'essence baisse et ça s'arrête pas. Donc, au contraire, faut s'y intéresser beaucoup. Et quand on dit, c'est en train de baisser. Là,
Le prix du brut.
Et puis là, à la pompe aussi, baissera. Et là, vous voyez, même là, on est un peu perdu. Non, je crois qu'il y a un mécontentement.
Vous comprenez cette grogne, c'est quelque chose de plus général pour vous.
Oui, et puis surtout quand on dit populiste, c'est les récupérations qui peuvent être populistes. C'est tout d'un coup certains mouvements politiques qui se greffent à ça. Mais là, c'est un mouvement de masse, il n'y a rien de populiste.
Emmanuel Macron n'ira pas cette année au congrès des maires de France, information confirmée hier soir par l'Élysée.
Oui, et c'est étonnant. Écoutez ce que disait le président de la République il y a un an, précisément dans son discours devant le congrès des maires de France, édition 2017.
Je suis venu à ce 100e anniversaire, mais je m'engage à une chose, si vous l'acceptez, c'est venir chaque année rendre compte des engagements que je viens de prendre. Parce que c'est cela l'esprit de responsabilité dans la République.
C'est cela l'esprit de responsabilité dans la République. Michael Darmon du service politique d'Europe 1 nous a rejoint. Bonjour Michael.
Bonjour.
Comment expliquer ce revirement de la part du chef de l'État?
Toujours délicat d'annoncer qu'on reviendra chaque année. Beaucoup de présidents s'y sont trompés. Alors que s'est-il passé? Depuis l'année dernière, ils ont de quoi être fâchés, les maires. Les accords sur la fiscalité locale passés pour remplacer la fin de la taxe d'habitation ne sont pas pour eux au niveau. Et en 2017, c'est vrai que le patron de l'AMF, François Baroin, avait joué les airbags. Cette fois-ci, ça n'est pas le cas. Puis surtout, on se demande si on n'est pas en pleine contradiction. Avant-hier, sur le porte-avions Charles de Gaulle, Emmanuel Macron est venu dire il n'y a pas assez de considération, on va gouverner autrement, les gouvernants devront aller sur le terrain. Bref, Jupiter était plus Jupiter. On comprend maintenant ce que ça voulait dire. Surtout, il n'était plus là pour prendre des coups. Il est beaucoup trop impopulaire pour ça. Donc, il envoie le Premier ministre au Congrès des maires. Quant aux élus locaux qui seront reçus à l'Élysée, on est certain qu'ils n'auront pas gilet jaune.
Donc on rappelle qu'Emmanuel Macron s'était fait siffler l'année dernière.
Il s'était fait siffler et cette fois-ci, il ne voulait pas justement peut-être recommencer parce que le contexte est encore plus difficile.
Merci Michael Darmon du service politique
d'Europe. C'est dur d'être un homme politique en 2018, Patrick Timsit.
Mais c'est tout le temps dur, c'est toutes les années qui sont dures. Et je crois que honnêtement, finalement, il y a eu des rendez-vous où on avait promis, un président promet de revenir l'année d'après, Florange et tout ça, et il valait mieux pas y aller, quoi. Oui, donc moi je trouve ça plutôt, au contraire, plutôt intelligent. Je dois être fan, hein, pour essayer de défendre à chaque fois, comme ça. Non mais c'est vrai, y aller quand on sait qu'on va se faire siffler, c'est comme si un acteur acceptait de jouer une pièce contre des gens qui sont absolument hostiles à sa prestation. Ça sert à rien, là.
C'est une information, Nikos. Team Seed, fan de Emmanuel Macron.
Il a dit, j'ai pas envie de me faire siffler. Pas l'interprétation populiste, s'il vous plaît.
À 8h15,
Audrey Crespo-Mara reçoit un grand élu local, Hervé Morin, patron des régions de France.
Il est 8h06.
Tariq Ramadan a obtenu sa mise en liberté sous contrôle judiciaire après 10 mois de détention. Il lui faudra verser une caution de 300 000 euros. Je vous rappelle que l'islamologue controversé est mis en examen pour le viol présumé de deux femmes.
L'accord sur le Brexit va-t-il finir par coûter sa place à la première ministre, Theresa May?
C'est une possibilité. Elle fait face depuis hier à une crise politique. 4 de ses ministres ont claqué la porte. Les députés qui auront le dernier mot, je vous le rappelle, pour valider ou non l'accord sur le Brexit, sont vent debout. Bon nombre d'entre eux, issus de son propre parti, tentent d'organiser un vote de défiance pour évincer la première ministre. Et on ne peut plus aujourd'hui balayer d'un revers de la main l'hypothèse d'un nouveau référendum. Les partisans de cette option reprennent donc du poil de la bête. Reportage de notre envoyé spécial à Londres, Jean-Sébastien Soldaini.
Sous une poignée de drapeaux européens, ces militants anti-Brexit convoquent les Beatles pour rythmer leur slogan. Hey Jude devient EU, une Union européenne que Daniel ne veut pas voir s'éloigner. Il soupçonne sa première ministre de tenter un coup de poker.
Au départ, Theresa May était pour rester dans l'Union. J'imagine que ce qu'elle essaye de faire maintenant, c'est de gagner du temps en faisant durer la situation. L'opinion pourrait s'inverser et les gens finiront par se dire « on ne veut pas de ce Brexit ». C'est ridicule, c'est de plus en plus clair que les conséquences seront désastreuses.
Theresa May l'a pourtant martelé, il n'y aura pas de nouveau référendum, mais Sarah n'en démord pas, la chef du gouvernement doit reculer.
Elle a perdu le contrôle des événements. On est devant une situation où il n'y a plus d'accord avec Bruxelles, car le Parlement ne votera pas le texte qu'elle nous met sous les yeux. Donc c'est son texte, aucun texte, ou bien on revote. Cette dernière solution est de loin la meilleure.
Revoter, une idée fixe qui revient comme un refrain chez les anti-Brexit, avec en message subliminal les premiers mots de la chanson de McCartney, « Don't make it bad », ne gâche pas tout. Londres, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Le drame en Californie avec le bilan des incendies qui ne cesse de s'alourdir. Les autorités déplorent désormais plus de 60 morts et 631 personnes disparues.
Europe 1.
À suivre dans le journal, des élèves d'un lycée de la Somme ont refusé de lire un livre parce que son auteur n'était, selon eux, pas assez français. Eh bien, l'écrivain sera face à eux aujourd'hui dans leur lycée pour dialoguer. Patrick Timsit, on commentera ça ensemble tout à l'heure.
Ben avec plaisir.
À tout de suite.
Il est 8h10, votre matinale info, Nikos Eliagas.
La suite du journal avec vous, David Doucan. Vous allez nous parler d'Akli Tadjer. Oui. Qui est-il?
Oui, Akli Tadjer est un auteur franco-algérien. Son livre, Porteur de cartable, relate l'histoire d'une amitié pendant la guerre d'Algérie. Un professeur de français du lycée de Péronne dans la Somme a demandé à ses élèves de le lire. Et une partie d'entre eux a refusé, au prétexte que l'auteur n'était pas à leurs yeux un écrivain français. Que faire face à une telle réaction? Eh bien, Akli Tadjer a décidé d'aller leur parler. Il sera aujourd'hui dans leur classe. Le dialogue, sans doute indispensable, ne sera pas facile. Écoutez cette enquête signée Justin Morin.
Ils sont tous surpris de l'ampleur qu'a pris l'affaire, comme s'ils n'avaient pas vraiment conscience de ce qu'ils ont fait. La preuve avec le témoignage de ce lycéen qui compte bien assumer ses propos aujourd'hui face à l'écrivain.
Nous, on n'a pas envie d'apprendre ça. Je sais pas, c'est pas un truc qu'on devrait lire en classe. Ça n'a rien à voir avec le français. La guerre, c'est une histoire pour moi.
Et la guerre d'Algérie, c'est l'histoire de la France aussi quand même.
Ouais, mais ça m'intéresse pas. Je vais mieux apprendre des autres guerres que ça.
Mais le fait qu'il était franco-algérien, ça te dérange ou pas toi?
Bah non, il est français. J'ai pas envie de lire son livre, quoi.
Lui a évité le conseil de discipline parce qu'il s'est résigné à lire le texte, mais pas l'un de ses camarades, le meneur du groupe. C'est lui qui s'est opposé à la lecture en premier parce que l'un des héros du livre s'appelle Messaoud. Hors micro, il confie vouloir s'excuser. Un premier pas pour l'écrivain Akli Tadjer.
J'ai hâte de les voir et je me déplace pas pour les affronter, pour leur expliquer que pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire chez eux, à Péronne, il y a 44 Messaoud qui sont morts. 44 qui ont laissé leur village, leurs parents, une fiancée peut-être, et qui ont laissé leur vie pour que eux puissent vivre libres. Faudrait qu'ils le retiennent.
Akli Tadjer promet de ne surtout pas vouloir leur faire la morale. Il dit simplement vouloir comprendre.
Enquête signée Justin Morin pour Europe 1.
Alors c'est un cas particulier, ce n'est pas une généralité, mais pour autant ça porte une réflexion sur l'autre, sur l'identité. Vous qui incarnez, mon cher Patrick Timsit, les textes d'Albert Cohen sur scène. Il n'était pas français à la base.
Non, mais de toute façon, ce qu'il y a de plus effrayant, c'est surtout quand c'est la jeunesse, quoi. C'est quand des enfants témoignent de choses qu'ils n'ont pas connues. Donc on se dit bien que c'est l'éducation. Et c'est pour ça qu'il faut aller les voir et discuter pour réouvrir un petit peu ce regard qui a
pas
été diaboliser, complètement
faussé. Discuter.
Vous vous rendez compte qu'il y a de l'antisémitisme en Pologne. Ils allaient dans les écoles, ils disaient oui, les juifs, ils nous ont tout volé. Mais là, il y a des juifs, tu connais des juifs? Non. T'en as dans ta classe? Non. Ça, c'est effrayant. Ce qui est vraiment effrayant, c'est de ne pas connaître, c'est la non-connaissance, la peur. C'est la peur qui dirige le tout, donc l'éducation. Et d'aller réouvrir, leur montrer quand même qu'il y a un dialogue. Et puis le meneur, vous avez vu, hein, il a une bonne stature, hein, il s'exprime bien, le meneur.
En général, les meneurs s'expriment toujours bien.
Voilà, exactement.
Mais tiens, on va parler d'un autre meneur.
Il s'excusera. Ouais. Hors micro, il dit qu'il s'excusera.
Il s'excusera. Bon, tant mieux. Voilà, il faut apaiser
c'est
tout ça.
C'est la menace.
On va parler d'un autre meneur, de Didier Deschamps maintenant.
Oui, parce que la France affronte les Pays-Bas ce soir dans le cadre de la Ligue des Nations. C'est à partir de 20h45. Victoire ou match nul, et ce sera la qualification directe pour les phases finales. Mais attention, parce que ce n'est pas le 11 de départ habituel, Cyril Delamorinerie.
Oui, avec 4 blessés de dernière minute et 6 joueurs qui n'ont pas participé à la dernière Coupe du Monde, l'équipe de France avance ce soir avec un peu moins de certitude. Et c'est principalement la défense qui interroge. D'abord, parce qu'elle vient d'encaisser 3 buts en 2 matchs, dont 2 face à l'Islande. Et surtout parce qu'il faut à nouveau la remanier avec des joueurs fragilisés. Presnel Kimpembe a commis plusieurs erreurs avec le maillot bleu. Lucas Digne n'était pas en Russie. Raphaël Varane revient tout juste de blessure. Benjamin Pavard s'enlise avec Stuttgart, dernier du championnat allemand. Mais le sélectionneur Didier Deschamps relativise.
J'ai confiance en ce que j'ai appelé, bien évidemment. Après que ponctuellement, il y en a certains qui sont un peu moins bien dans leur club. Là, c'est un contexte différent, donc j'ai pas de préoccupation, mis à part le fait qu'il y aura moins d'automatisme que si j'avais les 4 joueurs qui ont eu l'habitude de jouer ensemble parce qu'ils ont enchaîné beaucoup de matchs.
Cette défense devra particulièrement se méfier des Pays-Bas, certes absents de la dernière Coupe du Monde, mais qui viennent d'étrier l'Allemagne 3-0.
Cyril, merci Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe 1.
Et la rencontre sera diffusée en intégralité sur Europe 1. Prise d'antenne avec Lionel Rosso dès 20h. Merci Patrick Timsit.
Ben merci à
vous. D'être resté commenté comme ça, au pied levé, autour d'un thé ou d'un café.
C'est très agréable. L'actualité. Un petit déj ici, je reviendrai.
Ben quand vous voulez.
Pour le café. Hein.
J'entends. La maison est ouverte. Patrick Timsit, que vous retrouverez le 20 janvier sur la scène de l'Opéra Comique dans le livre de ma mère d'Albert Cohen pour défendre au profit effectivement du SAMU social international et SAMU social de Paris. C'était le journal de David Doucan.
Nico Saliagas.
Et à 8h15, on jette un coup d'œil à l'international avec Vincent Hervouette, Nikos.
Mon cher Vincent Hervouette, je vous ai vu écouter avec attention le journal et dans l'actualité, il y a le Brexit et pour Theresa May, c'était hier le jour le plus long.
Oui, bonjour à tous. Theresa May, elle a fait front, hein. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait de mieux. Elle a supporté la défection de 4 ministres, les rugissements de la Chambre des communes, les journaux indignés, la mutinerie de sa coalition. Elle reste impavide. Peu d'émotion, aucun charisme, elle encaisse. Il y avait la dame de fer, celle-ci est en caoutchouc. Alors il faut d'ailleurs beaucoup de souplesse pour voter contre le Brexit, puis devenir Premier ministre pour organiser le Brexit. Il en faut davantage encore pour dénoncer pendant 2 ans les conditions de Bruxelles, et puis in fine, tout avalé, car le bluff est terminé. L'Ulster restera en Irlande et au Royaume-Uni, en Europe et en dehors. Et en conséquence, les Britanniques vont garder un pied dans l'Union, le gauche, et un autre en dehors. Alors c'était déjà comme ça, mais ils avaient voix au chapitre, ils ne l'auront plus. C'était la meilleure des positions, c'est désormais la pire. Ils voulaient retrouver toute leur souveraineté. Eh bien, ils vont la payer très cher, et ils ne l'auront pas.
En tout cas, les dagues sont sorties au Parti conservateur. Ça a piqué.
Oui, George Osborne, qui laissa à Theresa May la place de Premier ministre, dit qu'il sera tranquille seulement quand elle sera dans son congélateur, découpée en morceaux. Plus grave, le ministre du Brexit a claqué la porte en écrivant « Aucune nation démocratique n'a jamais signé pour être soumise à un tel régime, imposé de l'extérieur, sans fin et sans aucun contrôle démocratique sur les lois qui seront appliquées. » C'est vraiment le retour de l'Europe, prison des peuples. Les 27 sont restés unie face à un royaume désuni. À Bruxelles, le Moloch démocratique, l'expression est d'Helmut Kohl, le Moloch démocratique a été implacable et les pays tentés par l'ère du large, sont ainsi prévenus. Alors, au lendemain du 11 novembre, on se souvient du traité de Versailles, aussi long à négocier et aussi implacable, qui voulait faire payer l'Allemagne et dissuader quiconque de l'imiter. On sait ce que ça a donné. De Gaulle disait, quand on nie les nations, elles se vengent. C'est bien la seule certitude. Pour le reste, le smog est total, Theresa May est perdue et l'issue de secours absolument introuvable.
Le point de vue international, c'est avec vous, Vincent Hervouette, tous les jours sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h17.
Dans deux minutes, l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara. Qui est votre invité ce matin, Audrey ?
Gilets jaunes ou pas gilets jaunes ? Hervé Morin, président centriste de la région Normandie et de l'Association des régions de France, nous dira si, même après les propositions gouvernementales de compensation à la hausse du carburant, il nous dira s'il bloquera la France demain.
A tout de suite, Audrey.
Il est 8h21, Nico Saliagas.
Le président de la région Normandie et président de l'Association des régions de France, Hervé Morin, votre invité Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Hervé Morin.
Bonjour Audrey Crespo-Mara.
Alors c'est décidé, demain matin vous mettez votre gilet jaune et vous participez au blocage des routes en Normandie ?
Je mettrai mon gilet jaune, je ferai œuvre ou geste de solidarité à l'égard d'un mouvement que je comprends parce qu'il concerne beaucoup de mes compatriotes en Normandie.
Vous allez faire quoi concrètement ? Vous allez mettre bloquer les routes ?
Je ferai simplement quelque chose d'extrêmement simple. J'irai dans le village d'à côté du mien et sans presse, j'irai simplement saluer celles et ceux qui disent quelque chose de simple au gouvernement. Pour une voiture en milieu rural, ça coûtait par mois 200 à 220 euros. C'est les chiffres de l'INSEE de 2016. Aujourd'hui, ça a augmenté de 50% le prix de l'essence et le prix du diesel. Ça veut dire que ça coûte grosso modo 350 euros. Pour un couple, ça fait 700 euros par mois. Quand vous gagnez 1300 ou 1400 euros par mois, c'est une charge gigantesque. Et je dis simplement au gouvernement, il y a une seule solution. La solution, elle est extrêmement simple, c'est de ne pas augmenter les taxes au 1er janvier 2019.
D'y renoncer,
et
vous y croyez
encore ?
Et de faire
une pause parce que, en clair, la contribution climat-énergie, ce sont les Saoudiens qui l'ont mise par l'augmentation du prix du baril et l'augmentation des taxes depuis 2 ans.
Vous porterez votre écharpe tricolore par-dessus votre gilet jaune ?
Non, absolument pas. De toute façon, d'une part, je ne suis plus maire depuis 2 ans, mais je ne mettrai pas de... Je ne mélange pas les gens. Je veux simplement indiquer...
Le président de la région Normandie, qui contribue indirectement à bloquer les routes, donc à bloquer sa propre région, c'est pas un peu bizarre ?
Je ne bloquerai pas les routes, j'irai simplement rencontrer celles et ceux qui disent au gouvernement ce que le gouvernement a entendu. Je vous rappelle que tout de même dans la même journée, vous avez eu le Premier ministre le matin et le Président de la République le soir. Et le Président de la République lui-même qui a expliqué qu'il n'avait pas réussi à réconcilier les élites avec le peuple français et qu'il fallait qu'il change de méthode
seulement.
De gouvernement. Donc, en clair, je crois que tout le monde l'a entendu et tout le monde comprend une chose simple. Il y a un Français sur deux, Audrey Crespo-Mara, qui vit dans une ville de moins de 10 000 habitants. La plupart du temps, il est obligé de prendre sa voiture pour aller bosser. Est-ce qu'on peut simplement intégrer l'idée que quand on gagne 1 400 euros par mois, c'est extrêmement compliqué quand on voit flamber le prix de l'essence ou le prix du diesel.
Hervé Morin, demain quand vous irez manifester avec votre gilet jaune, vous protesterez peut-être bras dessus avec des partisans de Jean-Marie Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. La fin justifie les moyens.
Ça, ce sont des histoires qui ne correspondent pas à ce que je vis. Moi, quand je vais, je vous prends un exemple concret.
Toute l'opposition tente de récupérer ce mouvement.
C'est pour ça que comme je ne veux pas être taxé de récupération, il n'y aura ni journaliste, ni rien de tout ça, et j'irai seul avec ma voiture rencontrer
des habitants. Donc le mélange des genres avec des partisans de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen.
Audrey Crespo-Mara, quand je suis à Putange pour une réunion avec les maires d'une intercommunalité, que des maires me disent « je n'ai jamais manifesté de ma vie, mais là je vais aller manifester ». Quand je vais au départ à la retraite de mon ancienne secrétaire de mairie de ma commune où j'ai été maire pendant 20 ans et où des artisans me disent « je n'ai jamais été manifesté, mais cette fois-ci je vais y aller », ils sont pas Front National, ils sont pas France Insoumise, ils sont simplement celles et ceux qui tous les jours vivent une situation que... Quand on est dans une métropole, en effet, on ne connaît pas.
Édouard Philippe a dit « ce pays crève de ne pas avoir été réformé ». C'est faux ? C'est une critique à l'égard des gouvernements auxquels vous avez appartenu ?
Oui, mais vous voyez, quand le président de la République dit « j'ai
Non mais là-dessus, ce pays n'a pas été réformé. Vous avez été au pouvoir.
Ça revient au même. Je fais la réforme du ministère de la Défense, qui a été une réforme extrêmement lourde.
Mais c'est une critique des précédents gouvernements. Le acheter du diesel, c'était pas Macron, c'était vos amis d'autres gouvernements.
Quand le président de la République dit je n'ai pas su réconcilier les élites avec le peuple, c'est là, ça revient à peu près à la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce qu'oublie de dire le président de la République ou le Premier ministre, c'est qu'en fait les Français se sont beaucoup réformés. Je vais vous donner des exemples simples. Laissez-moi finir. Des exemples simples. Le postier qui aujourd'hui distribue toute une série de services, il s'est beaucoup réformé. L'agriculteur qui a changé ses conditions de production, il s'est beaucoup réformé. L'ouvrier de chez Renault à qui on a demandé toute une série d'efforts, il s'est beaucoup réformé. Les seuls qui ne se sont pas réformés, le seul système qui ne s'est pas réformé, c'est l'État.
Auquel vous avez appartenu.
Mais j'entends bien, mais eux aussi. Enfin, je vous rappelle que Édouard Philippe, il a été le plus proche collaborateur d'Alain Juppé, que Emmanuel Macron a été ministre de l'économie et des finances de François Hollande, qu'il a été son collaborateur. Donc on peut se le raconter en permanence. Ce que je sais, c'est que le pays, les Français, eux, ont fait beaucoup d'efforts, ont accepté beaucoup de transformations dans leurs conditions de vie, dans leurs conditions de production, dans leurs conditions de travail, et que le seul système qui, jusqu'alors, est resté exactement le même depuis 30 ans, avec autant d'inefficacité, autant d'incapacité à innover, à expérimenter, à être agile, c'est le système public. Et c'est pour cela qu'en tant que président des régions de France, nous demandons une transformation du système avec plus de décentralisation et plus de proximité.
Les mesures annoncées par Édouard Philippe, donc vous les balayez d'un revers de main.
Je dis que ça ne suffira pas quand on s'adresse simplement aux deux premiers déciles, c'est-à-dire des Français, si j'entends ces chiffres, c'est-à-dire à des compatriotes dont le niveau de revenu est autour du SMIC.
Hervé Morin, Emmanuel Macron n'ira pas au congrès des maires mardi. Il rencontrera le lendemain à l'Élysée le bureau de l'Association des maires de France et plusieurs centaines de maires. Pourtant, l'an dernier, il avait promis ça.
Je suis venu à ce 100e anniversaire, mais je m'engage à une chose, si vous l'acceptez, c'est venir chaque année rendre compte des engagements que je viens de prendre. Parce que c'est cela, l'esprit de responsabilité dans la République.
C'est regrettable ou au fond, ça ne change pas grand-chose qu'ils viennent ?
Moi, je regrette qu'ils ne viennent pas parce que j'ai le sentiment que, pour reprendre sa formule, le gouvernement a décidé de resetter ses relations avec les territoires.
De remettre à zéro.
De rebâtir. J'ai eu des réunions de travail avec le Premier ministre, j'ai eu une réunion de travail encore cette semaine avec Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu. Je constate que le gouvernement veut changer sa relation avec les territoires parce qu'il comprend qu'une partie de la transformation du pays passe par les territoires et de la réussite du pays passe par les territoires parce qu'on a la capacité de mener des politiques de proximité correspondant à ce qu'attendent
nos compatriotes. J'entends, mais qu'Emmanuel Macron descende ou pas à ce congrès des maires, est-ce que ça change quelque chose ?
Bien sûr que ça change quelque chose. C'est quand même le grand bataillon des Républicains et de celles et ceux qui assurent la vie quotidienne de nos compatriotes.
Donc,
ce sont des hommes et des femmes qui sont des quasi-bénévoles.
Que le président ne descende pas ?
Et donc, je trouve que ce serait bien que le président de la République vienne à l'Association des maires de France pour expliquer qu'en effet, il a entendu le message qu'il a lui-même évoqué mercredi dernier à la télévision.
Un maire sur deux envisage de ne pas se représenter en 2020 selon une enquête du CEVIPOF. Crise des vocations, le manque de moyens financiers est mis en avant. Là encore, c'est l'effet Macron ?
Non, c'est le sentiment souvent de ne pas être reconnu, de ne pas être compris dans ses difficultés. Prenez des choses aussi simples que cela, quand tout d'un coup on rend inconstructibles des espaces uniquement parce que le poteau incendie est à plus de 300 mètres, alors que ce sont des maisons qui sont là depuis des siècles, il y a un moment le maire il se dit mais qu'est-ce que c'est que ces règles, ces procédures qu'on met en place qui deviennent insupportables et qui rendent si compliqué l'action publique, c'est cela que en quelque sorte les maires vivent au quotidien et qu'ils ne supportent plus.
Merci Hervé Morin.
Merci.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale tous les jours à 8h15. Et dimanche, le ministre de l'écologie François de Rugy sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. À suivre la revue de presse dans un instant. Bonne matinée à tous, vous écoutez Europe 1.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abris de piscine.
Et avec Laurent Cabron, Nikos.
Du brouillard ce matin, Laurent.
Oh là oui, la France se voile la face ce matin, comme hier, comme avant-hier. La situation ne change guère. Et nous aurons quand même un soir soleil sur les deux tiers du pays, alors que sur la Bretagne, Normandie, Picardie, Flandre, Île-de-France et Val-de-Loire, la liste des régions ne change pas. Dans tout ce secteur de la France, on peut dire que les nuages resteront présents, des nuages bas, avec des températures qui seront dans l'ensemble à peine plus basses qu'hier, mais ça va baisser dans les jours qui viennent. 10 degrés à Nancy, 11 à Paris, 14 à Rennes, 17 à Caen aujourd'hui et 20 degrés à Marseille. Et je vous parlerai tout à l'heure de la suite. La suite demain et après-demain s'annonce pratiquement de la même veine.
A tout à l'heure, Laurent Cabrol. Il y aura aussi Nicolas Canteloup.
7h-9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
Et à 8h33, on retrouve David Abicaire pour sa revue de presse, Nikos.
Bonjour David Abicaire.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour. Et bonjour à tous. Alors ce matin, la presse, c'est un peu la carte et le territoire. La carte de France des blocages, des barrages, des points noirs. Bref, le mode d'emploi de ce samedi 17 novembre en gilet jaune. Et tandis qu'une partie de la presse géolocalise les blocages, les barrages, les filtrages, l'autre essaie encore de comprendre qui sont les gilets jaunes. Un objet social non identifié pour l'opinion. Idem dans les échos qui décortiquent un mouvement social inédit. Un mouvement que le sommet n'a pas vu venir. Ce qui m'amène à vous parler d'une innovation présentée ce matin par Le Point. C'est une semelle flexible, intelligente, à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain, sous vos pieds. Dans la chaussure, elle transmet à votre smartphone les informations qu'elle a collectées pendant votre course ou votre marche. Alors l'objectif, c'est évidemment la santé du jogger, mais imaginez que ceux qui nous gouvernent aient des semelles avec des capteurs qui leur disent ce qui se passe en bas au ras des pâquerettes. Les Anglais auraient peut-être vu arriver les conséquences politiques folles du Brexit, dont il est question en une du Figaro. La mairie de Marseille aurait mieux mesuré l'urgence du logement indigne dont on parle ce matin dans Libération. Et peut-être, qui sait, le gouvernement aurait-il mieux anticipé avec ses semelles ce qui va se passer demain sur le bitume.
Car j'étais sur la route toute la cette journée.
Et on commence avec la une de Marianne qui joue la provoque, David.
Ce peuple qui pue le diesel. Un peuple méprisé par les partis, par les médias. Un peuple assommé par la fiscalité, titre Marianne. Ça cogne. Pas besoin pour l'hebdo d'aller chercher très loin qui sont les gilets jaunes. C'est le peuple qui a disparu des radars. Sauf peut-être de ceux qui le verbalisent. Hein. Ce peuple qui s'est mobilisé via Facebook, nouveau vecteur des révoltes locales, et se rassemble sur la nouvelle place du village... le parking. Et gare à ceux qui y voient une recomposition des extrêmes derrière leur volant. Non, ce sont des citoyens, poursuit Marianne. Des citoyens qui n'ont pas d'autre choix que la conduite. Et les enquêtes disent non seulement la fracture entre le politique et le terrain, elles disent aussi la fracture entre ceux qui ne porteront pas le gilet. Les urbains, CSP+, et les moins de 35 ans. Et puis les autres, issus de milieux populaires, issus des villes moyennes ou de la campagne. Et dans cette France ignorée, il n'y a pas que des conducteurs en colère, il n'y a pas que des gilets jaunes. Il y a aussi des maires, ils font la une du monde. Les maires que Macron n'ira pas rencontrer le 22 novembre prochain au Congrès des maires de France, 50% d'entre eux annoncent vouloir renoncer à leur écharpe tricolore, selon l'enquête du Cevipof réalisée auprès de 5000 d'entre eux. Alors pourquoi les maires n'y vont plus? Parce que c'est trop lourd, trop dur, mais aussi... et là, on va boucler la boucle. Mais aussi parce que les administrés, c'est-à-dire nous les Français, nous comportons de plus en plus comme des consommateurs capricieux, exigeants, individualistes. Ces comportements égoïstes et inciviques, on les retrouve dans Le Point de cette semaine qui parle non pas de guerre des gilets jaunes, mais de guerre du bitume. Une guerre provoquée par les nouveaux moyens de déplacement du bobo.
Et vous parlez des trottinettes, des monoroues, des gyropodes et autres planches électriques, David.
Ben oui, c'est ça. Le Point décrit... combien la cohabitation déjà complexe entre les bus, les vélos, les voitures et les scooters se complique avec les usagers de ces nouveaux engins. Vous prenez la révolution numérique, le déclin de la voiture en centre-ville, la montée en puissance des batteries électriques, l'extension des zones piétonnes et le fait qu'en 2050, 70% de la population mondiale vivra dans des mégalopoles. Et vous avez les ingrédients d'un Big Bang qui va générer un marché de 1000 milliards de courses, sauf qu'en attendant, c'est le bordel. Des accidents, des conflits de territoire et des actes inciviques en pagaille, explique Le Point. Au point que souvent, les piétons doivent emprunter la route pour faire de la place aux bobos trottinettes. Alors pendant ce temps-là, à Rennes, on expérimente quoi? Le bus sans conducteur, 100% électrique sur la ligne 100, nous explique ce matin Ouest France. Et ces expérimentations, il y en a partout en France, malgré les blocages de demain. La société est malgré tout mobile, plus mobile qu'on ne le croit. Les usagers des trottinettes, les cyclistes, les usagers des transports électriques et demain des bus sans chauffeur, tous ces gens-là, ils mettent pas de gilet vert pour dire combien la transition énergétique leur profite. C'est pourtant cette France-là que le pouvoir politique doit réconcilier avec l'autre. Et c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que la France n'est pas la Suisse. Alors, pourquoi je vous parle de la Suisse, mon cher Nikos ? Parce que nos amis suisses s'apprêtent à interdire les scellés sur les pies de vache. C'est quoi les scellés sur les pies de vache ? Le scellement des pies, ça consiste à leur boucher les pies avec de la colle pour éviter l'écoulement du lait pendant les concours et les foires agricoles, parce que ça fait pas beau. En clair, c'est pour que les vaches, elles aient de bons gros tétés au moment d'être montrées au public. Eh bien, à la demande des écologistes, ça va cesser. Et vous voyez, on a ici un exemple de la synthèse parfaite entre la tradition et le progrès. On interdit pas l'exploitation de la vache, on n'interdit pas les concours agricoles, parfois critiqués, on demande juste un petit sacrifice pour améliorer le bien-être animal. Bref, on a ici un exemple de conflit réglé dans une démocratie apaisée. Suivez mon regard.
C'est bien connu, les mamelles de la nation de la Confédération helvétique ne coulent pas. Merci David.
Par contre, il y a des mea culpa.
Oh, bien. La revue de presse, c'est aujourd'hui et c'est demain à 8h30. À suivre, c'est votre journée coup de fil à Zaz. Dans quelques instants, elle sort un nouvel album qui s'appelle Effet Miroir. Et à 8h45, il arrive le timbre affûté. Nicolas Canteloup, à tout de suite sur Europe 1.
Il est 8h40, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Tariq Ramadan obtient sa mise en liberté après 10 mois derrière les barreaux pour viol. L'islamologue va devoir payer une caution de 300 000 euros pour quitter la prison de Fresnes et respecter plusieurs obligations. Environ 1500 actions des gilets jaunes prévues demain dans toute la France, mais seulement une centaine déclarées. Le Premier ministre Édouard Philippe est dans l'Essonne ce matin pour défendre la prime à la conversion. Football ce soir en Ligue des Nations Pays-Bas-France à suivre en intégralité sur Europe 1 et ce dès 20h.
Europe 1, Nikos Aliagas, c'est votre journée.
Et vous savez quoi, Céline Dacosta, ce matin on va passer un coup de fil à celle qui fait l'actualité puisqu'elle sort un disque aujourd'hui, ça s'appelle L'Effet Miroir. Zaz est avec nous en ligne, bonjour Zaz.
Salut Nikos. C'est salut
pas
tout le monde.
Ça, c'est pas trop tôt, ça va? Je sais que...
Je comprends pas, il est 8h30 du matin, je comprends pas le principe du matin.
Et pourtant, il y a des millions de gens qui se lèvent très,
je
très
sais,
tôt.
Je sais.
Mais vous, vous travaillez jusqu'à très, très tard, donc ça s'explique un peu. Quand un disque sort, comme aujourd'hui, Effet Miroir, c'est une forme de libération, ça y est, le bébé ne vous appartient plus, les gens vont aller l'acheter.
Oui, j'ai l'impression qu'il sortait jamais. Qui sortait pas, qui et je suis très contente que ça y est, c'est fait. Et après là ça m'appartient plus. Moi c'est la scène là qui m'excite. J'ai envie de remonter sur scène là.
Là. Voilà la scène pour trouver les gens. Est-ce que vous avez un rituel Zaz le jour de la sortie d'un de vos disques? Vous allez l'acheter quelque part ou vous faites la queue comme tout le monde?
Est-ce que je vais l'acheter
symboliquement?
Je t'avoue, j'y ai pas pensé.
Ah, vous l'avez jamais fait.
Si, je l'ai déjà acheté, mais j'ai déjà acheté mes albums, non, là, j'y ai pas pensé. Je voulais juste qu'ils sortent, là. J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on l'a fait et je veux qu'ils sortent. Enfin, ça y est, c'est fait.
Voilà, maintenant il appartient aux gens, on l'a dit. C'est un album assez éclectique, plus doux aussi. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Vous êtes apaisé, on a l'impression, dans ce disque.
Ouais, bah, j'ai été regardé dans des zones d'ombre. Alors, du coup, j'ai été bienveillante, j'ai été plus douce, ouais, c'est vrai, t'as raison.
Ce métier, il vous a aidé aussi à vous connaître, vous qui voyagez énormément, qui chantez aux quatre coins du monde, d'Amérique latine, en Allemagne. Parfois, on se perd, on devient un autre dans la lumière. Vous, ça vous a fait l'effet inverse, j'ai l'impression.
Bah oui, parce qu'en fait, j'avais plein de rêves aussi, tu sais, de faire des choses, et avec tous les projets qu'on a mis en place, avec les assos et tout, en fait, j'ai rencontré plein de gens partout dans le monde. Du coup, c'est hyper nourrissant et c'est hyper enrichissant. Et puis, c'est rassurant parce que tu te dis, mais partout dans le monde, il y a plein de gens qui font des belles choses, qui se réunissent pour créer du bon, quoi. Et c'est hyper enrichissant et pour moi. Et puis, voilà, je me sers juste de ma notoriété. Enfin, voilà, j'ai rencontré des gens extraordinaires.
Ouais, ça s'est inspiré de ce qui marche ailleurs pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent marcher aussi et pourquoi pas chez nous. Vous êtes toujours hyper active, toujours en train de voyager, de vous engager dans des associations. Ça n'a pas changé, Zaz, rassurez-moi.
Non, on a créé un festival en plus il y a 3 ans en Ardèche, à Crussol, à Saint-Péray. Donc du coup, là, ça va être la 3e édition, c'est hyper excitant. Enfin voilà, j'apprends, quoi. J'adore expérimenter, j'adore apprendre. Donc du coup, c'est ce que je fais.
Kevendra, qu'est-ce que ça signifie, Kevendra?
bah, de se dire qu'il faut pas, voilà, il faut essayer de laisser la porte ouverte à plein de choses bonnes et ne pas rester bloqué ni sur le passé et de pas fermer la porte à de bonnes choses dans le futur. Quoi.
C'est un peu le
que surtout de vivre l'instant présent. Ouais.
Que sera, sera. Ce qui doit advenir, adviendra. Merci d'avoir été avec nous, cher Zaz. Voici un extrait de votre album qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle Que Vendra.
La vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment.
Sur les ça fait du bien un peu de musique le matin. Vous allez voir Nicolas Canteloup, il est exactement dans le même rythme. Il valse, il nous prend par la main, il nous emmène dans ses images, dans ses voix improbables, mais il le fait tellement bien. Nicolas Canteloup à suivre sur Europe 1 avec Julie. À tout de suite.
8h45. Il est 8h48.
Nous sommes sur le pont, il fixe l'horizon, le capitaine Canteloup et son matelot Julie. C'est parti pour la revue de presse.
Presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On revient sur le titre principal de l'actualité avec vous, cher Nikos.
Okay, quel honneur.
Et oui, July, ma matelote. Le titre principal de ce matin dans une matinale qui a la gouache, qui a la patate, qui a la
pêche,
qui a du power, qui a du punch. Oui, c'est Monsieur Patate. Et on commence tout de suite avec Stone et Chardin, made in Normandie.
Attendez, Nikos, je comprends pas, mais vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous faites?
Je prépare la remontada. Je vais faire venir les auditeurs de Radio Nostalgie chez nous. Étape par étape, state by state. Alerte enlèvement. Une prise d'otage a été signalée. Après Pierre Perret, Samuel Le Bihan, Sylvie Vartan, Éric Dupond-Moretti, Patrick Timsit a été kidnappé par un ravisseur. Si vous le voyez, n'agissez pas seul.
Ouais, salut. C'est Didier François, spécialiste des prises d'otages. Alors, quel est le mode opératoire du ravisseur? Eh bien, c'est toujours la même chose. Il attire sa victime avec une promo. Il le capture en lui proposant un café. Il le fait asseoir et c'est terminé. Le malheureux est coincé entre deux pages de pub et un journal. Et il ne peut plus parler. Nico, je ne fais pas le con. Laisse-le partir, t'es cerné.
Oui, non, mais ça y est, on l'a libéré, ça y est, rassuré.
Il est parti, Patrick.
C'est bon, c'est bon. Merci, Nikos.
On l'a gardé un peu plus pour le journal, effectivement, du 8h. C'est un plaisir.
Georges Tron a été acquitté hier. Les juges ont reconnu la réalité des rapports et des pratiques sexuelles avec les plaignantes, mais ont jugé que tout avait été consenti. Édouard Balladur, c'est vous qui avez fait débuter Georges Tron en politique. On imagine que ce verdict vous fait quelque chose.
Oui, tout d'abord, bonjour. Je veux préciser une chose, je n'ai jamais été retenu par un café par Monsieur Aliagas.
Ça viendra.
Jamais venu.
Je me méfierai. Pour répondre à votre question, c'est un soulagement que tout s'arrête enfin. Ce procès a été terrible, il m'a miné le moral de tout le monde, moi y compris, bien entendu, vous en doutez. J'ai des souvenirs pénibles plusieurs fois. Monsieur Tron m'avait léchouillé les orteils.
Vous
l'avez déjà évoqué.
Oui, vous l'avez déjà dit. Ça.
Vous imaginez, moi, Édouard Balladur, avoir les orteils, bisouillé par mon directeur de cabinet.
Oh là là. Oh là 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 là. Bon, écoutez, vous étiez consentant, vous?
Ben oui, ben écoutez, j'étais jeune et innocente. Je pensais que c'était comme ça qu'on pratiquait la réflexologie plantaire.
Ah oui, c'est ça, ouais.
Mais avec ce procès, tout a changé dans ma tête.
Alors pour sa défense, Georges Tron a déclaré « Je n'ai jamais eu dans ma vie sexuelle des scènes à 3 ou à 4 ». Il paraît qu'il a menti.
Non, écoutez, je peux confirmer ses propos.
Ah bon ?
Dans son bureau, ce n'était pas 3 ou 4 personnes, mais bien 7, 8, 10, 10 cornus qui se trémoussaient dans une sarabande obscène.
Oh là là, arrêtez.
Mais oui, mais écoutez, tout le monde voulait arracher ma chemise avec les dents et se fouetter avec ma cravate en miaulant « Miaou, miaou, je suis un gros matou vilain ».
Oh non,
mais... Ils frottaient sur mon torse les pages de nos rapports comptables.
Oh là là.
C'est là, monsieur Apathy, que j'ai dit pour la première fois, Ouais. Je vous demande de vous arrêter.
Tout s'explique.
Merci Monsieur Balladur et bon courage hein, parce que c'est pas facile hein, tous ces souvenirs là. Le gouvernement semble craindre des débordements samedi hein, donc demain lors des manifestations des Gilets jaunes. Bonjour Monsieur Castaner.
Ah, j'apprécie cette musique qui correspond à la fois à mon côté commissaire Castaner, car c'est la musique du professionnel avec Monsieur Belmondo,
oui, oui,
mais
sûr, oui.
C'est également, je le crois, la musique de Royal Canin qui finalité. Et mes rapports avec Emmanuel Macron, c'est peut-être, vous l'avez évoqué à travers cette musique, mon côté rentemplant.
Alors, ce qui vous gêne, c'est que ces manifestations ne soient pas encadrées par les syndicats, par des responsables, c'est ça?
Tout à fait. Écoutez, vous savez, comme le disait le président Emmanuel Macron, les syndicats, de façon triviale, foutent le bordel. Mais au moins, c'est un bordel organisé. Avec le recul, finalement, c'est un bordel que l'on apprécie. Là, on s'achemine vers un bordel, je dirais, bordélique. Et finalement, c'est vrai que M. Martinez nous manque aujourd'hui avec sa grosse moustache rigolote et sa bonne odeur de merguez. Je le dis, Philippe, revenez, car avec vous, le bordel était organisé. Le bordel n'avait pas la même saveur, disons-le.
Merci. Monsieur Castaner. Allez, on reçoit la maire de Paris maintenant, Anne Hidalgo, bonjour.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour aux Parisiennes et aux Parisiens, bonjour à mes amis, mes nouveaux amis, les Gilets jaunes. Oui mes frères Gilets jaunes, nous sommes semblables, moi aussi j'adore bloquer les routes et faire en sorte que les automobilistes n'avancent plus. À ça siempre, viva la révolution les Gilets jaunes.
Alors parlons-en de l'automobile, hein. Les vieux diesels seront interdits dans le Grand Paris dès juillet 2019. Plus de diesel, plus de voitures immatriculées avant 2017 non plus. Vous avez aussi proposé une piétonnisation totale du centre-ville. Mais comment vous allez faire appliquer tout ça?
Écoutez, très simplement, Madame Julie, en incitant les automobilistes qui seraient tentés de rentrer dans Paris grâce à des tireurs d'élite postés sur les toits.
Ah bah dites donc, c'est violent ça, hein. Vous n'avez pas mieux?
Non, écoutez, il y aura, bien sûr, nous sommes conscients des précautions que l'on doit prendre. Il y aura des sommations d'usage et les premières balles seront tirées dans les pneus, bien évidemment. Pour les plus récalcitrants, ce ne sera qu'à la troisième balle qui sera à destination du réservoir que nous serons plus, disons, plus directifs.
Oui, on a bien compris.
Oh tiens, là, je vois un vieux diesel.
Oui.
Un vieux diesel, poule. Oh, une vieille voiture là-bas, poule. Et si vous rentrez dans Paris avec une roulotte de forain, là ce sera bien sûr feu à volonté. Et oui Marcel Campion, j'aime pas ta gueule.
Non mais attendez, pour les livreurs, parce qu'il y a des livreurs de meubles par exemple, de trucs encombrants ou d'autres. Hein.
Alors, il y a la solution non polluante idéale.
Quoi?
C'est la fameuse trottinette.
Ah, oui.
Écoutez, on peut très bien déménager avec un peu de volonté un piano en trottinette.
Oui, bien sûr. Et les ambulanciers, ils font comment?
Bien, une trottinette break.
Tiens, les pompes funèbres.
Une trottinette fourgonnette. Vous savez, j'ai réponse à tout.
Oui,
bah,
oui ça s'entend, oui. Bon, bah, on va vous laisser. Hein, à bientôt. Un autre sujet maintenant, l'Assemblée nationale s'apprête à examiner une loi contre la fessée comme méthode éducative.
Oui, bonjour Mme Julie, Monsieur Aliagas, bonjour à votre sympathique équipe.
Monsieur Juppé, bonjour. Mais vous avez un avis, vous, sur cette loi anti-fessée?
Écoutez, je suis partagé. La fessée, je dois l'avouer, c'est mon péché mignon. J'ai pris pas mal de fessées dans ma carrière politique. Monsieur Paty peut en attester. J'ai encore le derrière rougi par celle que j'ai prise à la primaire de droite. Mais ça m'a appris des choses, vous savez, ça m'a fait grandir. Donc la fessée peut avoir une vertu, disons-le, éducative.
Oh, tiens. Ah, bon.
Bonjour, bonjour, c'est Dominique. Dominique Romanti.
Bonjour, monsieur Strauss-Kahn. Alors, la fessée.
Écoutez, vous le savez, je me réserve désormais le droit d'intervenir quand la situation économique d'un pays nécessite mon expertise. L'interdiction de la fessée, je le dis tout de go, c'est le chômage. C'est tout un savoir-faire artisanal qui disparaît.
Oui.
Et aujourd'hui, je dois le dire,
Avec cette nouvelle, j'ai mal à ma France. J'aime avoir mal, mais là, j'ai mal à ma France. C'est le chômage et la précarité pour qui s'annonce pour Sandra Ladomina, pour Pamela Cure Center, pour Nigro Ninon Gromelon, Francina Coquine, Pénélope Interlope,
oui, bon.
Clitorine de Barnet,
oui, c'est bon,
Suzanne
c'est
Tire-Téton, oui, oui, Ginette Itouette.
Oui, et Julie La Chupie qui vous coupe la parole. Hein, monsieur Strauss-Kahn.
Julie La Chupie.
Nicolas, est-ce que Dominique Strauss-Kahn peut me dire un Julie Leclerc, juste pour mon plaisir personnel?
Julie Leclerc.
Merci Nicolas Canteloup. Bon week-end à vous et à votre équipe. La revue de presse, c'est tous les jours à 8h45. Wendy Bouchard, vous allez sur la fessée ou sur les gilets jaunes ce matin ?
Sur les gilets jaunes pour l'instant, monsieur, ouais. C'est la préoccupation majeure. On suivra évidemment le mouvement demain sur Europe 1. Une contestation difficile parce qu'elle n'est pas organisée. C'est pas un bordel organisé pour reprendre les mots comme
clou.
On a posé la question sur le sens de la mobilisation. La comprenez-vous sur Europe1.fr ? Vous êtes 70% à nous répondre oui. Sondage massif, réponse massif. La rue, les routes peuvent-elles faire reculer le gouvernement ? Et de manière inédite, on en parle et vous n'hésitez pas à réagir si vous faites demain partie de ceux qui manifesteront dans les 700 points de blocage. Et puis ensuite, on parlera des 80 ans de Mickey, voilà, pour changer un peu d'air.
Avec plaisir, ma chère Wendy.
Merci,
Wendy Bouchard, à partir de 9h sur Europe 1, il y a aussi l'essentiel de la matinale, les moments forts de ce que nous avons partagé avec vous depuis 7h du matin, chers auditeurs, et la météo, juste après ça, avec Céline Dacosta et Laurent.
Europe 1.
Il est 9h01, la suite essentielle de la matinale avec vous, Nikos. Mais tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol.
Alors, Laurent Cabrol.
Et les brouillards. Oh, brouillard, quand tu nous tiens, oui. On peut dire bonjour prudence, car il faut vraiment être prudent. Et sur la moitié sud, ils se dispersent. Ça y est, maintenant le soleil revient. Sur la moitié nord, ils sont encore très denses. Et ils persisteront en Bretagne, Normandie, Picardie, Île-de-France, Val-de-Loire et dans les Flandres. Alors, en ce qui concerne la région parisienne comme la région lyonnaise, on peut espérer quelques rayons de soleil sur les capitales, ou soit la capitale et sur la ville de Lyon. Pourquoi ? Parce que nous avons une sorte de bulle chaude, alors que dans les environs, ça restera vraiment très très gris. Mmh. Partout ailleurs, on peut espérer, et on espère, et on aura un temps ensoleillé. Température entre 10 et 20 degrés. Demain, ce sera un peu la même chose. C'est dimanche et tout, avec une baisse des thermomètres dimanche qui sera
le
assez
froid.
Sensible.
Le froid arrive ce week-end. Merci. Arrive. Merci Laurent Cabrol. L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. J-1 pour les gilets jaunes. 1500 blocages prévus demain sur l'ensemble du pays. Une mobilisation qui, vous allez l'entendre, inquiète les commerçants, comme à Langueux dans les Côtes d'Armor. Écoutez, c'était dans le journal de 8h.
Le blocage de la zone sur une durée de 4 jours à l'approche de Noël, on va être sur une perte de chiffre d'affaires d'autour de 15 000 euros.
Ça peut être 50, 60 000 euros de moins en un samedi. Ça m'angoisse, moi, en tant que chef d'entreprise. Les achats, ils ne vont pas se faire dans les magasins, ils vont se faire sur Internet. Hein.
Une partie des salariés vont rester à la maison. On va être bloqué alors qu'on n'y est pour rien.
Je suis très en colère parce qu'ils ne nous respectent pas. Et puis ça peut aussi durer jusqu'à fin décembre.
Ça peut durer jusqu'à fin décembre, nous dit effectivement un habitant de Langueux. On vient sur les gilets jaunes dans moins de 2 minutes avec Wendy Bouchard dans le tour de la question sur Europe 1. C'est un fléau écologique auquel veut mettre officiellement fin le gouvernement. Le diesel, 19 millions de véhicules qui en consomment en France. Et puis ça fait réagir. Pourtant, les effets sur notre santé sont calamiteux. Notre grande enquête sur le drame du diesel, c'était à 7h20 dans Europe 1, va plus loin.
Le corps réagit tout de suite, explique Thomas Bourdrel, radiologue et président de l'association Strasbourg Respire.
On voit déjà un impact sur les artères au bout d'une heure seulement d'exposition. L'impact sur le système respiratoire va également très très vite. Si vous êtes asthmatique, vous pouvez faire une crise d'asthme dans les minutes qui suivent une exposition prolongée à des gaz d'échappement.
Et puis, à plus long terme, des infections coronariennes chez les seniors, des leucémies chez les enfants, oui, notamment.
Voilà pour l'essentiel de la matinale. Merci à toute l'équipe du 7-9. Merci à la rédaction, aux reporters, aux journalistes, aux producteurs, aux réalisateurs, toutes les équipes techniques de cette station qu'on aime tant. Demain, c'est Bernard Poirette qui vous réveille dès 6h du matin. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à 7h. Passez une excellente journée. Préparez bien votre week-end et n'oubliez pas, tout va bien. On garde le sourire. Prenez soin de vous. Salut. Merci Céline Dacosta.
Merci
je vous embrasse.
Merci à vous, Nicolas, à lundi.